la guerre si tendre. Amis de la Résistance, bonsoir. Chers invités, bonsoir. Alors, je vais donner le plan de cette émission, puis après, on n'en tiendra absolument aucun compte, comme d'habitude. Ah, mais c'est M. Borteret qui veut un plan. Il veut un plan. On sent qu'il est architecte, quand même. Alors, d'abord, normalement, au téléphone, j'ai Roger Olindre. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi il utilise le téléphone, parce qu'avec sa voix, il devrait pouvoir se faire entendre en direct, mais il est au téléphone. Ensuite, nous parlerons un peu d'actualité. Ensuite, nous continuerons à parler d'actualité avec Éric Lebec à travers, enfin en évoquant une question qui est tout à fait d'actualité, qui est la question des rave parties, des rave parties, c'est-à-dire ça s'appelle rave, je pense, parce que ça se passe dans les champs de navets. C'est la seule explication.
Ça se passe plutôt dans des lieux désolés.
Oui, c'est d'ailleurs désolant.
Ça se passe plutôt dans des endroits isolés et loin de tout. Et on va se rendre compte que ça ne date pas d'aujourd'hui.
Mais hélas, pas loin de tout. Enfin, c'est pas l'opinion des voisins.
C'est l'opinion des malheureux voisins qui ont entendu.
Mais on en parlera un peu plus avant. Avec Vincent Borteret, qui est entre autres spécialiste des jardins de Versailles, on parlera du parc de Versailles, et c'est un prétexte pour l'entendre dire des belles choses sur les jardins de Versailles. Je lui ai demandé de venir nous dire un petit peu comment le parc avait résisté ou ressuscité après la tempête d'il y a 18 mois. Pardon, vous pouvez parler fort.
Je crois que nous devions parler des symboles.
Oui, mais bien sûr, on va parler des symboles, mais quel plus fort
symbole
que le symbole de cette... que cette tempête, qui est vraiment la tempête la plus fortement symbolique que la France ait connue depuis longtemps. Et puis ensuite, je recevrai M. Charousset pour parler, comme on le fait à peu près deux ou trois fois par an, du camp Aventure et Tradition. Qu'est-ce qu'il y a, Franck? Franck fait des grimaces parce que Éric Lebec touche le micro. Il ne faut pas toucher le micro, Éric Lebec. Il faut causer dedans, ça suffit largement.
Mais il faut d'abord le placer bien devant.
Il faut
devant
le placer
vous.
Devant son bec. Le fait est...
Je vais essayer de me plier à ce plan.
Voilà. Donc l'actualité nous amène à évoquer un sujet comique. C'est l'histoire du raffut médiatique autour de l'appartenance de Lionel Jospin à l'Organisation communiste internationale de M. Lambert Boussel, Boussel dit Lambert, qui est la secte la plus sectaire du groupuscule, le plus groupusculaire de l'extrême gauche, la plus extrême. Gauchiste. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que cette affaire qui a éclaté depuis quelques jours et qui fait quand même pour la deuxième fois la une du monde, c'est dire son importance considérable, cette affaire est vieille comme mes robes. Sauf erreur de ma part, je ne commets d'ailleurs en la matière aucune erreur, puisque je me suis référé à un ouvrage qui fait autorité, qui est l'Encyclopédie politique d'Emmanuel Ratier. La première évocation de cette affaire remonte au début des années 80. Il y avait eu des papiers dans l'Humanité, également dans Le Figaro, déjà dans Le Monde, et dans l'Événement du jeudi et dans Club. Vous vous souvenez du journal Club qui a disparu? C'est peut-être ma prononciation qui est... défectueuse alors.
Qu'est-ce que c'est?
Chlob.
Chlob. Polonaise? Avec un L barré?
Oui, c'est peut-être un petit peu polonais sur les bords. Mm-hmm. Et donc, ils avaient évoqué l'appartenance de Jospin, Lionel, alias Camarade Michel, à cet organisme ultra-groupusculaire, qui est une secte qu'on n'est plus ni moins.
Et. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si on peut sortir d'une secte pareille.
Eh bien voilà, c'est ça. Alors à l'époque, ça avait traînaillé un petit peu, mais on avait fait des papiers dans Minute, mais on ne s'était pas allé très très loin, ça n'avait pas bougé. Et là, d'un seul coup, ça ressort. Alors tout le monde dit, tout le monde s'interroge sur les raisons pour lesquelles cette affaire ressort, pour les raisons pour lesquelles le monde en parle, d'un seul coup, pourquoi. Et alors la plupart des gens disent, mais c'est très simple, c'est un coup soit des communistes pour faire du chantage à Jospin, alors ça c'est méconnaître le bon usage du chantage, le chantage ça consiste à ne pas dire les choses, parce que le chantage c'est un pistolet à un coup, une fois que c'est parti vous pouvez toujours essayer de récupérer, c'est fichu. Donc ça tient pas debout. L'autre explication c'est que c'est l'entourage de Chirac, c'est ce que dit le canard enchaîné, qui monte un coup contre Jospin, dans ce cas-là, c'est foutu aussi, parce que monter un coup qui foire, il n'y a pas d'autre mot, un an avant l'ouverture de la chasse, c'est pas une bonne opération.
Et puis de la part d'un signataire de l'appel de Stockholm, c'est intéressant.
Oui, oui. Ça encore, très franchement, hein, je me demande moi si à l'époque j'aurais pas été capable de le signer par surprise, l'appel de Stockholm. Parce que quand vous avez un brave type qui se présente en disant vous êtes pour la paix, bien sûr. Souvenez, c'est quand il y avait ces gosses qui se baladaient, enfin j'en étais d'ailleurs. Pas, j'étais un gosse à l'époque, je veux dire, j'étais pas avec eux, mais en disant est-ce que vous avez quelque chose contre les nègres? Alors on vous disait forcément non. Ah ben tenez, signez ça, puis donnez-nous 100 francs pour financer je ne sais quelle opération. Et on se faisait avoir comme ça. Donc là, vous êtes pour la paix? Oui, bien sûr, je suis pour la paix. Bon, ben alors signez. On signe et on se retrouve fiché 50 ans plus tard. Bon, alors je m'interromps une seconde parce que je crois qu'on a Roger Olindre. Allô?
Allô, oui.
Roger Olindre, bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir, ça va très bien.
Alors, c'est le... Oh là, il y a eu des... tu as attrapé froid?
Non, je suis un peu fatigué parce que c'est un sacré boulot de mettre tout ça en place.
Hein. Ah, voilà, alors qu'est-ce que tu mets en place? La grande fête annuelle du...
Oui, c'est la 15e.
La 15e?
Oui.
Quel est le programme cette fois-ci?
Eh ben, c'est un peu traditionnel, hein. C'est à peu près le même programme. Il y a que le programme du spectacle qui change. Autrement, il y a la messe à 10h30 par l'aumônier du CNC, avec tous nos drapeaux et tout ça, une messe militaire, quoi. À 12h, il y a la cérémonie des couleurs. Ensuite, les gens peuvent se répandre dans les stands. Enfin, il y a les repas, il y a des restaurants, il y a casse-croûte, foie gras, il y a beaucoup de choses à manger. Il y a un grand stand militaria, il y a un stand de livres, il y a une brocante, puis il y a pas mal de choses.
Il y a le parc aussi.
Il y a les sonneurs de Sologne, il y a la meute, puisqu'on est en Sologne, il faut faire respecter tout cela. Il y a le chœur Montjoie-Saint-Denis qui va parcourir la fête en chantant pour les gens.
Ça, c'est peut-être pas le meilleur moment de la journée, mais enfin, il faut en passer par là, on le sait.
Pardon?
J'ai dit, c'est peut-être pas le meilleur moment de la journée, mais il faut en passer par là. Oui. Non, mais c'est une vieille tradition, chaque fois qu'on parle du... Parce que je vois Vincent Berteret qui est un peu surpris par mon agressivité. C'est pas de l'agressivité, c'est une vieille tradition. Chaque fois que je parle du chœur Montjoie, je lance une pique pour le laisser entendre qu'ils savent pas chanter, ce qui est totalement faux parce qu'ils chantent remarquablement. Oui. Mais ça m'amuse de les taquiner, voilà.
Non, mais ils chantent bien.
Bah, bien sûr.
Ils sont quand même assez nombreux maintenant. Puis enfin, ils répètent. C'est assez typique. C'est la tradition.
Ils ont des costumes magnifiques.
Ça fait partie de la tradition. Et alors, cette année, au point de vue spectacle, on a une troupe enfantine, Maxence et ses danseuses. Ce sont des gosses qui chantent et qui dansent très bien. Il y a aussi une attraction qui sort un peu de l'ordinaire. Il y a Cécile Lamonica, la chanteuse du célèbre cabaret Le Don Camillo, qui va nous interpréter quelques chansons et qui, je pense, terminera par la vieille chanson « Je ne regrette rien ». Et à 16h30, il y a mon intervention qui sera plus spécialement axé sur l'Algérie et toutes les saloperies qui sont racontées sur l'Algérie. Et à 17h, c'est Le Pen qui termine. Enfin, chaque année, en général, il y a pas mal de monde. Et on espère quand même, on prie le bon Dieu, qu'on va avoir le beau temps, parce que le temps est quand même un peu instable.
Parce que ça se passe quand? Alors, c'est
dimanche 10 juin, dans notre château, à Neuville-sur-Barangeon, dans l'ancien séminaire Saint-Louis. De 8h30 à 20h. L'entrée est à 50 francs pour les adultes, 30 francs pour les jusqu'à 8 ans pour les enfants, c'est gratuit. De 8 à 12 ans, c'est 30 francs et le parking est gratuit.
Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour prendre les visiteurs qui viendraient par le train?
En général, on a un accord avec... on a des cars qui partent de Paris, il suffit de téléphoner au Cercle National des Combattants 38 rue des Entrepreneurs. Et puis,
tu as le téléphone en tête?
Pardon?
Tu as le numéro de téléphone du Cercle en mémoire?
Le numéro de téléphone, alors c'est le 01 40 59 07 66.
Donc ça, c'est pour savoir d'où partent les cars, à quelle heure ils partent.
Oui.
Et ils vont, à ce moment-là, directement au château.
Voilà.
Mais si on arrive à la gare de Vierzon, c'est Vierzon, hein, je dis pas de bêtises.
Oui,
hein.
C'est ça. Oui.
Si on arrive à la gare de Vierzon par le train,
oui. Plusieurs personnes peuvent prendre un taxi. Ah. Les taxis connaissent très très bien le château et c'est pas les prix parisiens. Hein.
Oui.
Je crois que c'est 100 balles, quelque chose comme ça, quoi.
D'accord. Donc le 10 juin, à partir de 8h30 jusqu'au soir.
Oui, de 8h30 à 20h.
À 20h, et toutes les
festivités cadre, habituelles. Je crois qu'on peut le dire, de notre propre.
Ah, le parc est magnifique, le château est splendide, et le parc, c'est vraiment, surtout en cette saison, ça doit être un...
Oui, c'est très, très bien.
Est-ce
c'est
qu'il y a un peu d'animaux, des cerfs, des...
Oui, mais il y a toujours, puis il y a notre troupeau, on a nos vaches, on a nos moutons, on a nos chevaux, on a tout, quoi. Nos poules, nos canards, nos lapins, nos cochons, enfin,
des cochons, mais qu'est-ce que vous faites des cochons? Vous les mangez pas, j'espère.
C'est la vieille France.
Ouais. Ok, Roger, bah écoute, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde.
J'invite tous les amis à venir se joindre à nous pour passer véritablement une grande fête champêtre et familiale.
Très bien.
À bientôt.
À bientôt, Roger. Merci d'avoir appelé. Voilà. Donc, c'est la 15e, tout ça ne nous rajeunit guère, la 15e fête annuelle du CNC, le Cercle National des Combattants, qui se tient au château de Neuville-sur-Barangeon. Alors, pour y aller, donc, deux solutions. Ça se passe le 10 juin à partir de 8h30 du matin. Mais si vous arrivez à 10h, vous ne serez pas battu. Hein. C'est pas l'heure militaire, en dépit de ce qu'on pourrait penser. Donc, vous pouvez y aller soit par autocar, soit en automobile à pétrole par vos propres moyens, soit par autocar en téléphonant pour avoir les horaires et toutes les informations au 01 40 59 07 66, soit par le train en arrivant à Vierzon, et à Vierzon vous prenez un rongeur, ce qu'on appelle un rongeur. À Paris ça s'appelle un rongeur, je sais pas si à Vierzon, vous ne connaissez pas cette expression?
Non.
Ça s'appelle un rongeur parce que dans le temps, quand les compteurs n'étaient pas électroniques, ils faisaient clic-clic-clic-clic comme les dents d'une petite souris. Voilà, ça n'a pas l'air de vous passionner ce que je raconte, elle s'en fout totalement. Bien, voilà, dimanche 10 juin, à partir de 8h30, Neuville-sur-Barangeon, pléonasme sur redondance. Je n'explique pas pourquoi j'appelle ça comme ça, mais...
Je me comprends, je suis bien le seul.
Je me comprends et je suis bien le seul. Bon, non, tu vois pas pourquoi?
Tu te comprends et tu es bien le seul.
Voilà, bon, c'est ça, restons-en là. Donc, on parlait de l'appartenance de Jospin. Alors, est-ce que c'est Chirac qui a balancé le morceau? C'est vrai que les gens de l'Élysée étaient en train de mettre sur pied une grande campagne. Ils sont rigolos, ils sont vraiment d'une nullité incroyable. Ils étaient en train de mettre sur pied un grand truc, une grande action, mais qui réservait pour les quelques mois, 3-4 mois, avant la date de la présidentielle. Dès que Jospin aurait manifesté officiellement, c'est-à-dire tout à fait au début de l'année 2002, son intention d'être candidat, il a annoncé ce matin chez El Kabach qu'il donnerait sa réponse à la question « Serez-vous ou serez-vous pas candidat ?» au début de l'année 2002. Donc dès qu'il aurait fait cette annonce, et si cette annonce était positive, les officines liées à l'Élysée auraient sorti un truc en disant « Voilà, vous allez voter pour un menteur, Jospin le menteur, il a dit qu'il n'était pas trotskiste, il a dit que c'était son frère, c'est pas vrai, voilà les papiers, voilà les trucs, les fichiers. » Alors, naturellement, c'est pas l'Élysée qui aurait fait ça. On aurait fait infuser par la bonne presse l'affiche Hergé qui montre que le 12 avril 1966, Jospin avait participé à une conférence secrète avec Boris Frankel et Ben Saïd dans une cave du 18 rue de la Poupée qui tousse pour préparer la révolution, etc. Bon, naturellement, j'espère qu'il n'est pas totalement idiot, il savait que ça allait se passer comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait faire un sondage par Matignon, enfin pas par Matignon, mais par un institut, le sondage dont il est ressorti que à peu près 80% des Français se contrefoutaient totalement qu'il ait été trotskiste, pour l'excellente raison qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est qu'un trotskiste. Pour eux, un trotskiste, un anticommuniste, parce que Trotsky, enfin pour les plus cultivés, hein, c'est un anticommuniste parce que Trotsky a été assassiné par Staline. Donc, comme le dit Le Monde d'ailleurs, les trotskistes, c'est des anti-staliniens. Ce qui, à mon avis, quand même est un portrait un petit peu réducteur. Hein, parce que Hitler aussi était anti-stalinien d'une certaine manière.
Ça dépendait des époques.
Ça dépendait des époques, voilà. Mais donc ça ne suffit pas à définir tout à fait ce qu'est le trotskisme. C'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça, le trotskisme. Mais les Français s'en foutent. Et après tout, ils ont bien raison, parce que Trotsky est quand même mort depuis un bout de temps.
Oui, mais enfin, défendre les Trotsky, c'est quand même prendre une certaine position.
Oui. Surtout pour quelqu'un qui veut s'engager à fond dans la vie publique.
Ce qui serait surprenant, c'est que le monde prenne des positions contraires, étant donné qu'on peut dire probablement que 70% de la haute direction ou de la rédaction en chef du Monde est constituée de trotskistes ou de prétendus anciens trotskistes. Si c'était contre, ça se saurait. Mais d'ailleurs, c'est pas une surprise, parce que il faut dire que dans la presse française, à la télévision et à la radio, à peu près, on peut considérer que plus de la moitié du personnel cadre appartient à la nébuleuse trotskiste. Ils ont tous été maqués soit avec Arlette, soit avec Krivine, soit avec Lambert. C'est pas Lambert Wilson, hein, c'est l'autre.
C'est, ni les ciments.
Ni les ciments, non, ça c'est autre chose. C'est un autre genre de trotskisme. Donc, alors évidemment, ils sont tous pour. Alors, ça, ceux qui ne savent pas sont pas contre, parce que ça leur est totalement indifférent. Ceux qui savent sont majoritairement pour. Et d'autre part, cette opération servait énormément les intérêts de Jospin dans la situation présente, parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans la majorité plurielle, il y a des tiraillements, ça, c'est pas là, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, mais les tiraillements principaux sont liés à la récupération de l'électorat communiste, qui est considéré comme perdu pour U. On considère que U va perdre, il fera probablement pas 5%. D'après non pas les sondages officiels qui lui donnent 6%, comme 8%, pardon. Non, je dis bien 6%, comme Le Pen d'ailleurs, ce qui est probablement totalement faux. Il est très probable qu'il ne fera pas 5%. Et l'électorat naturel, l'électorat traditionnel du Parti communiste ne se détermine pas. Il est majoritairement tenté par l'abstention, parce qu'il ne veut pas voter pour U, qui est un guignol, pour lequel ils ont un mépris de fer. En plus, ils le détestent. Hein. C'est extraordinaire de voir à quel point U est détesté par les militants, les vrais militants. Ils ne veulent pas voter pour le couple infernal Krivine-Laguiller, qui leur paraît c'est sur le banc. Hein. Je ne sais pas si vous le rappelez. Vous vous rappelez, Vincent?
Le petit bout du banc.
Avec Jean Churza et...
Et
Raymond Souplex. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Krivine et Laguiller,
Je suis prêt qu'ils sont beaucoup moins drôles.
Ils sont moins drôles, mais ils ont le même âge. Et puis physiquement, ils sont moins jolis quand même. Il faut reconnaître que Krivine est beaucoup moins joli que Jean Churza. Hein. Quant à Laguiller, à part les moustaches, c'est vrai qu'elle ressemble étonnamment à Raymond Souplex.
Oh,
qui n'avait pas de moustache.
Non. C'est son portrait.
Donc les communistes ne sont pas très attirés, ils ne prennent pas ça très au sérieux. Et puis ils trouvent que le parti socialiste est quand même nettement embourgeoisé. Et donc ils avaient besoin d'une motivation. Et là, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent que Jospin est un véritable homme de gauche, puisque lui, c'est un militant révolutionnaire pur et dur depuis 40 ans. Ça fait 40 ans quand même.
On lui fait un beau portrait marxiste.
Ah, il est repeint en rouge.
Repeint en rouge vif.
Voilà, en rouge vif. Et donc, c'est lui qui a monté l'opération. C'est ses conseillers d'image qui lui ont dit, c'est maintenant qu'il faut sortir. Parce que là, on casse le coup à l'Élysée. On prend à rebours, ou on prend à contre-pied l'extrême-gauche qui est en train de se pavaner en disant, c'est nous les rois de la pampa. Et d'ailleurs, Jospin lui-même, ce matin, a dit dans l'émission de... il n'a pas dit textuellement, mais il a exprimé en termes à peine voilés qu'il n'avait pas de leçon d'extrémisme gauchiste à recevoir de Laguiller et de Krivine, que lui c'était un vrai, un pur, un dur, que les lambertistes ils étaient quand même un petit peu plus baraqués que les gars de lutte ouvrière, et que d'autre part, lui c'était un sérieux, c'est-à-dire que quand les autres font des discours, ça il l'a dit textuellement, quand les autres font des discours, lui il fait des réformes. Et Boris Frankel, qui était interviewé la veille sur la même radio, a dit, si Jospin est entré au ministère des Affaires étrangères en sortant de l'ENA, c'est parce que je lui ai dit de le faire, alors il n'a pas dit que c'est sur mon ordre, mais c'est ça que ça voulait dire, parce que c'était le meilleur endroit où il pouvait se cacher, ça c'est textuel, hein. C'était l'administration où il avait le moins de chances de se faire repérer comme militant révolutionnaire, où il pourrait préparer pour l'avenir la révolution, c'est-à-dire des bouleversements de la vie des Français. Or, qu'est-ce que fait Jospin depuis qu'il est au pouvoir, sinon, non pas organiser, mais amplifier tous les processus de bouleversement profond de la vie, de la mentalité des Français, que ce soit sur le plan social, sur le plan
La destruction de l'agriculture.
La destruction de l'agriculture, la destruction de la famille,
la destruction
de l'identité française par l'immigration, par les naturalisations massives, par l'avortement qui est en passe de devenir obligatoire, hein, pratiquement. En tout cas, pour les gens qui sont soupçonnés d'être porteurs, les femmes qui sont soupçonnées d'être porteuses d'enfants à risque, moi je vous le dis, je suis absolument certain qu'avant 5 ans, l'avortement sera obligatoire sous peine de suppression des aides sociales. Parce qu'on expliquera aux gens, écoutez, pour des raisons morales, pour des raisons religieuses qui vous appartiennent à vous, vous refusez de vous faire avorter alors qu'il est probable que vous aurez un enfant trisomique, c'est une charge pour la société, il n'y a aucune raison que la société supporte les conséquences de votre fanatisme religieux, donc si vous avez un enfant trisomique alors que vous avez été prévenu et qu'on vous a proposé l'avortement thérapeutique, vous n'aurez pas droit à l'aide sociale qui s'attache normalement à ce genre de situation. C'est ça qui va se faire. C'est ça le bout du bas du banc de l'opération avortement et de l'opération euthanasie. Et ça, c'est le fruit du travail trotskiste. Pas du travail de Jospin, du travail de trotskisation des institutions et des systèmes en France, qui est en route depuis maintenant, on peut dire, pratiquement 40 ans. Quoi. Ils n'ont pas attendu que Mitterrand soit au pouvoir pour le faire. Alors, l'autre question qui se pose, et à laquelle je crois que je viens d'apporter la réponse, c'est est-ce que Jospin a quitté le groupuscule lambertiste ou a abandonné le trotskisme en 66, en 70, en 71, en 76, en 77? Non, il n'a jamais cessé d'être trotskiste. Il est absolument trotskiste. C'est tout à fait clair. Et il n'a pas changé du tout d'idée, il a changé de méthode. Et c'est vrai que les méthodes du trotskisme d'il y a 30 ans ou 40 ans sont dépassées aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs la tronche, comme je le disais tout à l'heure, d'Arlette et de Krivine pour comprendre à quel point ces gens-là sont dépassés. C'est des fossiles vivants. Tandis que, enfin vivants d'ailleurs, ça reste à prouver, ce sont des fossiles tout simplement. Tandis que Jospin, lui, on sent qu'il a intégré toutes les données de la vie politique moderne, le combat d'image, le combat du nominaliste, et il fait ce qu'il a à faire en s'abritant derrière l'image de l'austère qui se marre, mais en glissant à chaque fois des messages qui sont pour les amateurs et pour les habitués parfaitement compréhensibles. Donc, conclusion, on a en France au pouvoir un trotskiste extrêmement malin, je ne dirais pas dangereux parce que c'est un pléonasme concernant un trotskiste extrêmement malin, qui a organisé lui-même son outing, comme on dit pour les homosexuels, et qui a réussi son coup d'une façon superbe, car l'annexe de ça maintenant, la conséquence annexe de cette opération, c'est que toutes les blattes trotskistes qui se baladent derrière les plaintes des ministères, des administrations, des journaux, des radios, etc., sont maintenant, elles vont pouvoir sortir et se montrer au grand jour. En disant, mais attendez, mais moi je vois pas pourquoi, je ne dirais pas que je suis trotskiste, puisque le Premier ministre l'a été, ou l'est encore. Donc maintenant, c'est plus une tare d'être un révolutionnaire, qui, je le rappelle quand même, est un révolutionnaire déterminé à détruire la société dans laquelle nous avons créé, nous, que les Français ont voulu, au mépris de la volonté du peuple, de la volonté majoritaire.
Ce sera intéressant de voir d'ailleurs quelle est la concurrence entre ce qu'on appelle les Verts et qui sont des Rouges Vifs et le trotskisme socialiste. C'est-à-dire que
La différence principale, c'est que les Verts sont les larbins des grands groupes pétroliers. Alors que
il n'y a pas l'ombre d'un doute.
Les trotskistes ne sont pas les larbins des grands groupes pétroliers. Les Verts, c'est des trotskistes moins intelligents que les autres, moins déterminés, moins honnêtes probablement, qui se sont dit il y a du fric à se faire, il y a des places à prendre. Et ils ont organisé ça très bien. Alors il y a eu des échecs, il y en a qui étaient moins rusés ou plus avides, et ils ont pris le fric tout de suite et puis ils ont arrêté. Il y en a qui se sont dit c'est pas la peine de partir avec si peu quand on peut partir avec beaucoup, et qui continuent à faire ce travail. Mais c'est la raison, c'est la, à mon avis, la différence principale entre les écolos et les écolos trotsko et les trotskistes pur jus. C'est simplement le rapport au fric qui est différent. Enfin, c'est mon opinion et je la partage. Des messages ?
Quelqu'un qui nous explique tout.
Ah,
Il ne s'agit pas de l'Organisation communiste internationale, mais de l'Organisation communiste internationaliste pour la reconstruction de la quatrième internationale.
Oui, j'ai fait un lapsus.
Il y a eu une scission donnant deux branches. La Ligue communiste révolutionnaire de Krivine et le groupe Lambert, qui a créé l'AJS, je ne sais pas ce que c'est, dirigé par Charles Berg. En 70-71, il y a eu 10 000 jeunes rassemblés au Bourget, 4 000 jeunes à l'International de la Jeunesse, à Essen, un G-R, groupe d'études révolutionnaires, est une précellule, car on est coopté à l'ECI, on n'adhère pas.
Voilà, absolument, on est coopté, voilà. On est choisi par... Et Jospin avait été choisi par Frankel.
Je trouve au contraire, contrairement à vous, que cela fera du bien à la droite. Se dévoiler comme marxiste, cela va faire la... va donner la trouille à plus d'un.
Oui, je pourquoi, ça, parce que la droite n'est pas complètement marxisée aujourd'hui.
En plus, je veux dire, une fois de plus, c'est un problème de vocabulaire. Moi, je comprends très bien ce que veut dire cet auditeur ou autrice. Mais auditeur. Moi, je n'appelle pas ça la droite, c'est tout. Il n'y a plus de droite en France. Il n'y en a plus. Il reste quelques petits groupuscules qui se bouffent le nez. Mais si vous appelez M. Bérou la droite, si vous appelez les gens de l'UDF la droite, si vous appelez la droite un mouvement dans lequel il y a à la fois Mme Boutin et Mme Bachelot, l'une qui est contre l'avortement, l'autre qui est pour, moi j'appelle pas ça la droite, j'appelle ça un parti chauve-souris, c'est-à-dire, hein, je suis pour l'avortement, voyez Bachelot, je suis contre, voyez Boutin. Vous êtes toujours content. De toute façon, l'essentiel, c'est que vous votiez pour nous, qu'au bout du compte, le fric arrive toujours au même endroit.
C'est la droite plurielle.
Voilà. C'est la droite plurielle, c'est ça. Donc, il n'y a plus de droite. Chirac est de droite comme moi, je suis membre de la Troisième Internationale, enfin, c'est... Donc... De toute façon, dans la situation actuelle de l'opposition libérale, rien ne peut les sauver. Sauf Bérou, peut-être.
Tant mieux.
Hein, Bérou peut,
je ne dis pas tant mieux pour Bérou, je dis
Bérou,
rien ne peut les sauver.
Il a été ministre de l'Éducation nationale, il était plein de bonnes idées, il n'a
rien
bien,
fait. Bérou, très bien,
il
Bérou.
Il n'a rien fait.
Mais non, vous ne comprenez pas, il faut pousser bien, Bérou à être candidat. Il faut, moi, à mon avis, il faut que Bérou soit candidat, que Boutin soit candidat, Chirac soit candidat, Madeleine soit candidat, Pasqua soit candidat. Qui encore on pourrait trouver?
Eh ben,
Villiers. Moi. Oui, vous. Oui.
Moi, voilà. Oui. Moi, je serai candidat. Villiers sera. Le docteur Dor va être candidat. Tiens, bonjour docteur. Voilà, votez Dor.
Je continue. Monsieur Jospin était trotskiste et Monsieur Chirac vendait l'humanité. Où est la différence?
Eh ben, à l'époque, ça voulait dire quelque chose, parce qu'à l'époque, si Jospin était tombé entre les mains de Chirac, il le zigouillait à coups de piolet.
Il s'entre-zigouillait.
Non, Chirac aurait tué Jospin à coup de piolet. C'est bien les Staliniens.
Jospin l'aurait tué à coup de quoi de...
Ah ben moi, j'ai pas entendu dire que Trotsky ait assassiné Staline avec quoi que ce soit. Hein. C'est toujours les Staliniens qui tuent.
Il y en a qui a tiré plus vite.
Avec un piolet. Un piolet à deux coups. D'autres messages?
Les sondages donnent 8%, M. Le Pen, et non 5%.
Non, j'ai pas dit 5, j'ai dit.
6.
Mais non, écoutez ce que j'ai dit. J'ai peut-être commis un lapsus en disant 6. J'ai dit. U ne fera pas plus de 5. Mais c'est une estimation personnelle, ça n'a aucun intérêt, ce que je dis.
C'est la vraie droite, là. Vous ne l'avez pas dit, vous n'avez pas parlé de la vraie droite. La vraie droite, il y a quand même le Front National qui reste la vraie droite, et le MNR.
Eh ben, ils feront, à eux deux, comme toujours, ils feront 15 à 16% des voix. C'est très probable. Ben oui, 8 Le Pen plus... Le Pen, on le sous-évalue toujours de 3 ou 4 points. Bon, alors, donc, il fera 10-12, et... Mais bah, pour le coup, on pourrait bien faire les 20% cette fois-ci, à deux.
Bon,
mais ça marche pas comme ça que ça marche, c'est dommage. Parce que si on pouvait faire moi j'irais bien une république qui serait... les jours pairs, le président serait Le Pen, les jours impairs, ça serait Maigret.
Alors...
Ce qui serait, ça ferait travailler les déménageurs, en tout cas. Parce que naturellement, chacun en quittant le bureau, il viderait tout. Il supprimerait toutes les traces de son passé.
Il ferait moins le temps de faire des bêtises.
Ça, moi, je ne relève pas. Hein. Là, je vous laisse la responsabilité de cette assertion.
Je parle de la République.
Hein. Ah bon, d'accord. En général?
Bien sûr.
Alors, un auditeur nous dit qu'au sujet de l'association Droit de Naître, vous avez dit tout à l'heure que tout le courrier partait à la poubelle.
J'ai parlé de l'association.
Mais j'ai pas entendu. Moi,
tout à l'heure.
J'entends pas tout. Mais c'est peut-être
non,
pour
ça,
tout
c'est
à l'heure.
Ça, c'est un message d'il y a six
c'est
mois.
La semaine dernière, alors. Peut-être la semaine dernière, vous avez dit ça. Or, j'ai reçu une réponse à une carte envoyée à Laurent Béteille, sénateur de Brunois. Peut-être pourriez-vous le dire à l'antenne pour la crédibilité de vos propos.
Eh bien, c'est fait, mais monsieur, avant de donner des leçons, il faut écouter ce que je dis. Je n'ai jamais dit que
c'est
tout le courrier envoyé.
Vous.
J'ai dit très précisément. Évidemment, pas tout le courrier. J'ai dit le courrier envoyé à l'Élysée. Quand on vous dit envoyer des cartes à l'Élysée, les sacs ne sont même pas livrés. Ou s'ils sont livrés, ils ne sont même pas ouverts. Mais j'ai parlé de l'Élysée, je n'ai pas parlé des sénateurs. Évidemment, si vous m'envoyez à moi une carte de l'association Le Droit de Naître, je vais la recevoir, parce que le facteur ne va pas ouvrir l'enveloppe pour dire « Ah ah, c'est une carte de l'association Le Droit de Naître, détruisons-la ». Non, c'est pas comme ça. Mais quand ça arrive à la poste de Paris, au CEDEX qui s'occupe de l'Élysée, c'est mis dans des sacs particuliers, c'est pas avec le reste du courrier, c'est mis dans des sacs, et c'est on porte les sacs à l'Élysée, et les sacs, ils vont directement, non pas les sacs, mais leur contenu va directement à la poubelle. Pensez bien qu'ils vont pas s'amuser à ouvrir 2, 3, 5, 10 000, 20 000 lettres dont ils savent qu'elles contiennent toutes exactement la même chose, parce que comme ce sont des enveloppes qui sont marquées de la même manière, ils savent bien qu'à l'intérieur, il y a la même carte qui invite M. Chirac, qui a fait passer la loi sur l'avortement, à revenir sur cette décision. Donc ça marchera pas. Ils s'en foutent de votre courrier. Mais ça vous a coûté des sous qui pourraient être consacrés à des causes, enfin à la même cause, d'une façon plus efficace. Par exemple, si on donnait de l'argent pour organiser l'accueil des enfants non désirés, créer des crèches, créer des chambres pour les mères célibataires, ce que fait par exemple, non pas le droit de naître, mais le droit de vivre, ce que fait le docteur Tremblay, ou
là, Winfried.
Et Winifred, absolument, Winfried Vermeulen, c'est le docteur Dor qui parle, ça, envoyer de l'argent à ces gens-là, ça c'est utile, c'est porteur, c'est productif. Envoyer de l'argent à des gens qui fabriquent des cartes postales qui sont envoyées directement dans les poubelles de l'Élysée, à mon avis, ça sert à rien, voilà, je répète. D'autres choses.
Face à la gauche plurielle, nous avons une droite singulière.
Mais ça, c'est très joli.
Pendant que la gauche rafle la mise dans tous les domaines, l'extrême gauche s'engraisse sur Radio Courtoisie, et que l'extrême gauche s'engraisse, sur Radio Courtoisie, on passe le temps à tailler des bavettes et à chercher des poux supposés dans la tête de la gauche. Le mieux serait de dire à M. Serge de Beketch. Chaque soir, Radio Courtoisie confirme ce qu'avait dit De Gaulle. Vous avons la droite la plus bête du monde,
mais qu'est-ce
malheureusement.
Mais qu'est-ce que je peux faire? Vous voulez que je dise, on va prendre des fusils, on va descendre dans la rue? Vous voulez que j'aille assassiner qui?
C'est ça qui vous ferait.
Je vais retirer son chapeau de nain. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Quand on est journaliste, on écrit, on parle. Moi, j'ai un stylo, je fais mon journal. Et j'ai un micro, je parle. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Déjà, je vote pas. Alors, je ne vote plus. Voilà. Je ne vote plus.
Bah, vous avez bien tort.
Bon. Pour qui je vais voter?
N'importe
pour Arlette.
Pour
Arlette.
Non, pas pour Arlette.
Qui c'est nous?
Nous, c'est-à-dire l'ancienne droite nationale qui est cassée en deux. Alors, vous choisissez votre
bulletin,
morceau,
alors.
Vous choisissez votre morceau, mais bon, vous en mettez
j'ai un. Qu'un bulletin. Alors, je vais le déchirer, puis je vais mettre moitié dans un, moitié dans
l'autre,
puis voilà.
Faites votre choix, monsieur Lame. Alors, Chirac-Jospin, la différence est entre les idées fausses et pas d'idées du tout. On est bien là.
C'est joli, ça aussi.
Alors, autre chose. Êtes-vous au courant que cette nuit, dans le quartier de la Goutte d'Or, des voitures ont été incendiées par des jeunes?
Alors,
j'ai tout vu de chez moi. Ils mettent le feu, s'enfuient, mais les CRS n'ont pas bougé. Cet après-midi, Madame de Panafieux a lancé cet événement au visage de Vaillant, je suppose que c'était à l'Assemblée nationale, en lui disant que la même chose s'était produite dans le 17e.
Que faisait-il?
Il
rigolait, Madame Panaf, comme si quand ils étaient au pouvoir, les beurs foutaient pas le feu aux bagnoles. Non, mais il faut quand même pas plaisanter. Je voudrais faire une remarque. C'est plus la peine de donner des informations comme ça. C'est pas ça l'information. C'est pas cette nuit des voitures ont brûlé dans le quartier de la Goutte d'Or. L'information c'est cette nuit, des voitures n'ont pas brûlé dans le quartier de la Goutte d'Or. Cette nuit, une vieille dame n'a pas été agressée dans une rue de Paris. Cette nuit, un commissariat n'a pas été attaqué à Sarcelles. Voilà, ça c'est des informations. Non, on les entendra jamais parce que ça n'arrive pas. Mais imaginez que ça arrive. Hein. Cette nuit, un wagon de métro n'a pas été détruit par une bande de singes hurleurs hystériques. Là, voilà une information formidable. Mais on ne les a pas, ces informations, parce que ça n'arrive pas.
Et oui. Autre chose, on vous demande votre avis. Il se murmure qu'Anne Sinclair présenterait le journal de 20h de France 2. Elle a quitté TF1 hier.
Ah, c'est peut-être. Moi, je regarde jamais
France 2. Savez-vous quelque chose?
Je trouve ça très rigolo, cette histoire, parce que ce qu'on en sait, c'est juste la crème, ou plutôt c'est l'écume, mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a sous l'écume. Parce que l'histoire s'est passée de la façon suivante. Madame Sinclair, qui en avait ras-le-bol de la fonction totalement inadaptée qu'on lui avait confiée, puisqu'on lui avait confié la gestion du site internet de TF1. Alors, elle doit connaître internet à peu près comme moi, je connais sa poche. Elle doit être gestionnaire à peu près comme moi, je suis acrobate de cirque. Et donc, elle a, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas à son aise dans cette affaire. Et elle a commencé à être moins présente. Lelay, le frère Lelay, pas le frère Delay, le frère Lelay, qui est un grand porte-glaive à la Grande Loge Nationale Française. Donc il devrait être copain avec Madame Sinclair. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est extraordinaire, parce qu'ils sont comportés exactement comme un patron de supermarché avec une caissière. Il lui a envoyé deux lettres commandées pour absence injustifiée, et il l'a vidée. Et elle a reçu ça, et elle dit « Je suis blessé, on s'est mal conduit avec moi ». Évidemment, on ne se conduit pas avec Madame Sinclair comme avec une caissière de supermarché. Ça, ça manque de goût, je suis bien d'accord. Mais enfin, il se trouve que dans notre pays, les gens qui ont un emploi, qui ont un salaire, par moment, on leur demande de fournir un certain travail en échange de ce salaire. Je sais bien que c'est inhabituel, ça paraît aberrant, mais c'est comme ça. Et là, l'autre, il a sauté sur le cas et dit « Cette dame-là ne fait pas le boulot pour lequel elle est payée ». Ce qui est probablement faux, je suis certain qu'elle travaillait sérieusement. Mais elle n'avait peut-être pas les moyens de faire tout ce qu'elle en espérait d'elle. Alors c'est ça, si on lui avait donné à piloter Concorde pour aller à New York, elle était à peu près dans la même situation. Encore que le voyage est plus court maintenant. Hein. Et donc, il l'a vidée. Alors elle prend ça comme une injure personnelle. Et surtout qu'elle était allée le voir avant, et c'est ça qui est amusant, en disant... bon, écoutez, je suis pas très à l'aise dans le site internet, j'aimerais bien refaire une émission. Et l'autre, malin comme un singe, je dis oui, c'est ça. Présentez-moi, allez donc présenter un projet à Moujotte. Alors, Moujotte, qui doit avoir une sympathie, à peu près autant de sympathie que moi pour Madame Sinclair, il l'a reçu, il lui a dit non, vos projets n'ont absolument aucun intérêt, et badaboum, elle s'est pris deux lettres commandées, et voilà, elle a été vidée. C'est une tragédie, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que, à mon avis, M. Strauss-Kahn, qui n'est autre que l'époux de Mme Sinclair, doit avoir 2-3 sous à gauche, et personnellement, je ne veux pas verser une larme, je ne crois pas qu'ils soient encore à la soupe populaire.
S'il n'a pas d'argent, il a peut-être des conseils.
Voilà, il peut avoir des... Et les conseillers ne sont pas toujours les payeurs. C'est tout.
Attendez, j'ai autre chose, là. Allez-vous nous parler du phénomène des tournantes en banlieue?
Mais ça, je vous recommande de lire le Libre Journal, pof, petite réclame, parce qu'il y a une série d'articles de mon excellent camarade Michel Delière, qui est consacré à ce sujet, et qui c'est pas des articles d'humeur, c'est des articles extrêmement sérieux, documentés. Il a fait tout le tour de toutes les institutions, le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police, il est allé voir des avocats, il est allé voir des magistrats. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'est fait vider de partout à peu près. C'est ça maintenant en France. Hein. Quand on n'est pas un journaliste estampillé Trotsko, les gens ne vous parlent pas. Ils ne vous reçoivent pas, tout simplement. On n'a rien à vous dire, voilà. Mais je suis journaliste. Et alors, je ne vous reçois pas. Mais enfin, il a quand même réussi à avoir beaucoup d'informations. Et il publie une série d'articles sur ce phénomène des tournantes en banlieue, qui est un phénomène, d'ailleurs, c'est un phénomène culturel. Hein, c'est pas autre chose. C'est un phénomène culturel. Je ne sais pas si vous comprenez à niveau ce que je veux dire. Je ne vais pas m'étendre. Contrairement à... Voilà.
Et vous faites tancer par un auditeur.
Ah, tançon.
Monsieur le Riquetch, certes, Chirac aurait pu être surpris dans sa jeunesse et risquer et signer l'appel de Stockholm par inadvertance. Mais ce n'est l'opinion ni du commandant Guillaume, ni du commandant Muel, ni des colonels Moimet et Argout, qui tous précisent que Chirac était fiché à la sécurité militaire comme sympathisant communiste.
Alors, je vais encore une fois manifester un regret, c'est que à la radio, dans la presse, il y a un truc qui s'appelle les points d'ironie. À la télévision, il y a le sourire ironique. À la radio, il n'y a rien. quand je dis mais Chirac a été pris par à l'insu de son plein gré, il y a pas moi, il faudrait que j'ai une petite cloche. Attention, c'est pour rien.
Ou alors juste derrière ça. Vous faites.
Oui. Alors donc c'était pour rire que je dis ça. En fait, je sais très bien que Chirac était comme son père, un militant d'extrême gauche. Son père, hein.
La musique. Voilà.
Merci. Bien, alors, à propos de musique, donc, il y a cette histoire des raves aussi. Vous avez retrouvé, non?
Non.
On cherche depuis tout à l'heure si un auditeur...
Chers auditeurs, fais une annonce, une demande.
Voilà.
Ouvrez vos dictionnaires d'anglais, dites-nous donc...
Délire, voilà, sérieux.
Désir.
Délire. Rêve, oui, en anglais, c'est le délire.
Ouais. Ah, bon, voilà, alors... Ah, mais c'est mieux, alors, une soirée délire. C'est, ça veut dire, pas dire que vous êtes obligé de l'inviter, hein, le désir. Ah non, le délire.
Délire, oui,
c'est
délire.
Pas, c'est pas Arsène délire. Donc, en ce moment, il y a un grand débat sur les rêves partis. Alors, qui est un débat complètement controuvé, d'ailleurs, parce que on fait semblant de croire que la nouvelle législation ou la nouvelle loi qui est en cours de vote vise à interdire les raves parties. Alors qu'il n'a jamais été
en fait, il s'agit de leur donner un régime d'autorisation.
Voilà, de déclaration préalable.
De déclaration préalable, c'est-à-dire de les autoriser. Alors, ce qui est assez curieux dans une rave ou dans une... Oui, c'est d'abord le grand nombre de personnes qui se réunissent dans un endroit qui n'est pas urbanisé, dans des plaines, dans des forêts, dans des endroits un peu éloignés de la société ordinaire des hommes.
Dans des carrières, c'est d'ailleurs l'endroit où les jeunes font plus facilement carrière.
Voilà, c'est d'ailleurs le seul endroit où... Et alors évidemment, ils ont des voisins qui peuvent se plaindre, mais enfin, c'est quand même des endroits assez isolés. Il y a une musique continuelle, importante, etc. Il y a une utilisation de drogue, qui est là aussi considérable. Et puis, enfin, il y a, appelons les choses par leur nom, la débauche.
Et l'alcool. Beaucoup, oui. Beaucoup d'alcool.
Beaucoup d'alcool.
Alors, ça pose
je mettais
première,
l'alcool dans les drogues.
Dans les drogues, oui.
Parce qu'à ce niveau-là, c'est très sonore, bien sûr. C'est très sonore. C'est-à-dire qu'on n'y vient pas pour y échanger des discours, pour y avoir des conversations, mais donc pour danser. Et... ce qui m'a paru curieux, ayant publié le journal d'un jésuite du XVIIe siècle qui est connu pour être un spécialiste, qui a été béatifié par Pie XII il y a 50 ans tout juste.
On vient de célébrer le 50e
anniversaire de sa béatification. Donc le Père Monnoir, est le spécialiste des questions de sorcellerie dans la théologie moderne. Et le Père Monnoir décrit sous le nom de Sabbat des phénomènes qui ressemblent, à s'y méprendre, aux rêves d'aujourd'hui. C'est-à-dire un grand nombre de personnes dans des endroits isolés, avec beaucoup de musique. Et puis alors il n'est pas aussi clair dans les premiers textes qu'il ne l'est dans les textes à la fin de sa vie, mais l'usage de stupéfiants.
Alors d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que l'analogie va très loin, puisque... les jeunes dans les rave parties disent qu'ils prennent des stupéfiants parce que ça les fait planer. Et une des explications qu'on donne à la légende selon laquelle les sorcières chevauchaient des balais et se promenaient dans les airs à l'issue des sabbats, c'est qu'elles prenaient des produits qui leur donnaient l'impression de voler, donc de planer. Alors,
absolument, il s'agissait de produits qui étaient ingérés par voie transcutanée, c'est-à-dire... On sait à peu près de quels végétaux il s'agit. Ce sont des végétaux qu'on peut encore trouver aujourd'hui, si on est un petit peu botaniste, et qui étaient donc cuits dans le beurre. Le beurre n'était évidemment pas pasteurisé à cette époque, donc il tourne. Heureuse époque, je ne sais pas. Enfin, il tourne, il rancit, et on soin de ce beurre, on s'en
enfin, ben oui, puisque c'est de la musique, donc c'est de la musique,
on s'en onissait, et donc les sorcières sentaient très mauvais. À cause de ce beurre rance, avec les principes actifs hallucinogènes. Alors, évidemment, les liens avec les rêves d'aujourd'hui sont assez frappants, assez étonnants. Alors,
pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut autoriser les rêves? Eh bien, c'est parce que on veut qu'il y ait le plus possible de gens à y aller. Il y a quand même des personnes qui ont un petit peu peur d'aller dans des endroits où leur voiture risque de se faire cabosser ou brûler. Ils voudraient pouvoir consommer des drogues sous contrôle médical, comme on voudra bientôt tuer sa grand-mère à héritage sous contrôle médical, et bien entendu éviter toute naissance non désirée sous contrôle médical, ça on connaît tout ça. Alors, c'est une imposture de la part de Médecins Sans Frontières ou d'autres de prétendre aller contrôler les différentes potions, les extasies et autres que prennent les gens qui participent à ces rêves. Bien entendu, la débauche, mais qui en fait ce sont des viols, et on retrouve là le phénomène des tournantes, était déjà présent à l'époque du XVIIe siècle de Julien Mounoir. Julien Mounoir décrit le phénomène en Bretagne bretonnante, donc dans un pays qui est isolé à la fois par les mauvais chemins et par la langue, puisqu'il s'agit de personnes qui, pour un très grand nombre, ne parlent que le breton. Et on trouve les mêmes phénomènes à la même époque, dans le Vivarais, dans le Pays Basque,
où là,
la justice s'en est mêlée avec
la
légèreté habituelle qu'on connaît, n'est-ce pas, au chamitré. Et puis, il y a les mêmes phénomènes aussi en Lorraine, dans des pays à l'époque germanophones. Donc, il y a quelque chose là qui n'est pas, si vous voulez, comme on a pu l'imaginer à un moment, une espèce de survivance celtico-druidique. Enfin, c'est une sottise. Bon, mais il y a évidemment des gens comme Morvan Lebec, qui n'est qu'un homonyme, bien sûr, qui ont pu imaginer des choses pareilles. Mais enfin, c'est
fâcheux.
Fâcheux, oui, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Donc, si vous voulez, le travail de Mounoir est un travail qui est d'autant plus intéressant que c'est un travail qui vient par des témoignages spontanés. C'est-à-dire que Mounoir ne s'est pas intéressé, a priori, à ce sujet. Il n'a pas cherché où pouvait être le diable, le démon, les débauches, l'alcool, etc. Il n'y a rien de trouble.
Lui, il va faire une mission d'évangélisation, en quelque sorte.
Oui, c'est un missionnaire, comme on a connu après lui beaucoup d'autres, à la manière, à son époque, de Grignon de Montfort, Saint-Vincent de Paul, et les missionnaires du 17e, 18e siècle. Donc, avec des différences, bon, il est beaucoup plus actif que ne le sont les missionnaires de son époque.
Ça, c'est d'ailleurs incroyable, quand on lit son journal, quand on voit un peu sa vie, on voit à quel point les personnages de cette époque étaient des voyageurs intrépides, et infatigable, qui parcourait à pied ou dans les
infatigable,
conditions
des chemins où
il faisait des allers-retours, ils allaient demander des conseils à l'évêque à 200 km, ils revenaient, enfin c'est tout à fait étonnant. Et alors lui, il y a une dimension en plus chez Mounoir qui est très extraordinaire, c'est que il a appris la langue bretonne par l'intermédiaire du Saint-Esprit, vraiment.
Ah oui, alors lui c'est un pentecôtiste, mais un pentecôtiste compréhensible. Il pousse pas des gémissements bizarres, voyez-vous. Il a appris le breton en visitant la chapelle de la Timamdwe, ce qui est donc la maison de la Mère de Dieu à Quimper, qui est une petite chapelle qui existe toujours. Je ne sais pas si on apprendrait miraculeusement le breton, je vous conseille l'adresse en tout cas. Et le père Mounoir, qui était un breton de Haute-Bretagne, qui parlait le français, qui parlait peut-être le gallo, mais je ne crois pas, est allé là pour apprendre le breton, puisque on lui avait donné comme mission d'être missionnaire en Basse-Bretagne. Et il a appris le breton comme ça, en une visite à cette chapelle.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas une légende, c'est avéré, parce que c'est ce qui ressort de son procès en béatification.
Oui, puis surtout ce qui ressort de l'expérience des témoins.
Oui, il y a des témoins.
Il parlait pas le breton avant, il le parlait après, c'est quand même assez simple à voir. Et puis, non seulement il parlait breton, mais je dirais qu'il le parlait beaucoup. Parce que il est l'auteur de la première grammaire moderne de breton, il est l'auteur de cantiques qui sont passablement interminables, et qui ont été...
C'est-à-dire, il les faisait chanter longtemps, parce que pendant qu'il chantait, il buvait pas.
Peut-être que la chanson donne soif, je ne me risquerai pas beaucoup à ce genre de commentaires, mais en tout cas, Monnoir a été un sauveur de la langue bretonne en l'inscrivant dans la culture populaire et dans la foi. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que on veut... pourquoi c'est ces rêves aujourd'hui à l'époque de Monnoir, il y a une dimension religieuse qui est spectaculaire. C'est-à-dire qu'on est dans une période de grande foi où la présence de Dieu, des saints, des anges, des miracles, je dirais, n'ajoute rien à l'expérience. Les gens vivent dans ce monde surnaturel d'une manière ordinaire et habituelle. Si aujourd'hui le diable venait à se montrer dans une rêve comme il se montrait dans les sabbats de Julien Monnoir, je crois que la rêve se mettrait à genoux et peut-être pas pour adorer le démon.
C'est peut-être pour ça qu'il se montre pas d'ailleurs.
Il a dû réfléchir à ça. Parce qu'on connaît des satanistes au début du siècle, des Max Jacob et d'autres, des Huysmans, enfin, qui se sont convertis à force de fréquenter les gens d'en face.
Ouais.
Comme le disait un de mes bons pères, la foi est très simple, parce que personne ne croit plus en Dieu que le diable.
Oui.
Ça, c'est un...
Ça n'est pas athée.
Non.
C'est un sujet intéressant, d'ailleurs.
Moi, je ne crois pas qu'il soit croyant, d'ailleurs. Il est plutôt connaisseur.
Il sait.
Non, il est croyant, il n'a pas la foi, il n'est pas fidèle. Il est même le parangon de la fidélité.
Il n'a pas la vertu de foi.
Il ne peut avoir aucune des vertus, ni la foi, ni la charité, ni l'espérance.
Il n'a pas les vertus théologales, mais il a une connaissance de Dieu. Saint Thomas d'Aquin en parle, évidemment. Et dans son article sur les anges. Alors, Monnoir, aujourd'hui, nous donne, me semble-t-il, une explication, c'est-à-dire il y a une facture à présenter à quelqu'un. Et ce quelqu'un tient à recevoir le culte auquel il prétend.
C'est assez cohérent avec ce qu'on voit par ailleurs, avec le sacrifice humain, je continue, qui est qui est l'avortement. C'est cohérent avec des propos de personnages comme Lang, qui a plusieurs fois dans des déclarations officielles, des interviews, fait allégeance à Satan en disant moi, si le diable existe, j'aimerais bien être copain avec lui. Il y a des déclarations tout à fait troublantes. Il y a donc en ce moment, on sent très bien qu'il y a une espèce de banalisation du satanisme dans la vie quotidienne.
Alors on le voit aussi à travers des slogans publicitaires, des affiches. Bon, je me souviens qu'on a beaucoup ri quand on nous a montré les paroles à l'envers dans certaines chansons de rock, n'est-ce pas, les backwards words, où on pouvait, en jouant un disque à l'envers, entendre des paroles, etc. Jusqu'au moment où quiconque regarde ce qu'on appelle un disque jockey manipuler ses disques, eh bien on le voit avec les mains faire justement bouger les disques en avant, en arrière. Et il est évident que le disque jockey est un personnage essentiel d'une rêve partie. Alors, il faut quand même se poser quelques questions, si on en a encore.
Alors, si on veut en savoir plus sur le Père Monnoir et sur les rêves parties médiévales ou la Renaissance plutôt.
Non, c'est le grand siècle, c'est le 17e siècle.
Même du grand siècle, oui. On peut lire, on trouve encore votre livre, Eric.
Oui, mon livre qui est pas le mien, puisque c'est le journal de Monnoir que j'ai fait, traduit et commenté. Oui, on le trouve, tout à fait, il s'appelle Miracle et Sabbat, c'est le nom que l'éditeur lui a donné, et pourquoi pas, ça résume assez bien, et assez étrangement, ce journal latin n'avait pas été traduit jusqu'à maintenant, et il ne circulait que des copies manuscrites, et j'ai eu la chance, que je ne pouvais pas garder pour moi, d'avoir l'original.
D'accéder à la petite armoire de fer.
La grande armoire de fer du gardien des vertus des jésuites à Rome. Il faut une grande armoire pour les vertus des jésuites.
Les jésuites, oui. C'est-à-dire, l'avantage, c'est qu'on vous perd la clé parce qu'ils n'en ont plus beaucoup l'usage. Voilà. Et c'est paru chez qui, aux éditions de Paris?
Aux éditions de Paris, voilà, aux éditions de Paris. D'ailleurs, je crois que le Libre Journal, votre Libre Journal, fort aimablement a rendu compte de ce livre.
Donc, oui, on en a rendu compte, parce que d'abord, ça me paraît vraiment bien, bien illustré la pérennité d'un phénomène qui est le satanisme et les sabbats qui existent encore.
Avec oui, le vieux serpent se renouvelle pas beaucoup.
Et ça permet de donner donc un éclairage particulier sur la réalité des rêves parties et surtout sur les raisons pour lesquelles autant de gens se mobilisent pour défendre quelque chose qui est totalement grotesque. Enfin, l'espèce de raffut médiatique et de raffut politique autour de cette histoire est totalement disproportionné avec l'apparence de cette histoire. Il s'agit simplement de gosses qui se réunissent pour guincher toute la nuit. De mon temps, ça s'appelait des surprises parties. On mettait la radio moins forte et on n'avait pas d'ecstasy. Mais je dois dire qu'il y avait quand même du whisky qui circulait en cachette des parents et que, comme on n'était pas très habitué, il suffisait de boire un verre ou deux pour se retrouver à peu près dans l'état dans lequel se retrouvent aujourd'hui les gosses avec ce qu'ils boivent et ce qu'ils fument et ce qu'ils avalent, je pense. Mais si à l'époque un homme politique s'était dressé pour prendre le parti de la liberté des surboues,
il aurait rayonné.
Grotesque, voilà.
On aurait rayonné, ouais.
Il n'y a pas de... Vincent Bertrand, il n'y a pas de rêve parti dans le parc de Versailles?
Alors, en ce qui me concerne, ma rêve partie a duré 20 ans. C'est du rêve REVE, et ça a été donc une expérience qui, au contraire, demandait la conscience la plus aiguë et l'esprit critique le plus entraîné, et certainement pas de se laisser aller sous les drogues. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des réunions dont je n'ai pas entendu qu'elles étaient ni satanistes ni quoi que ce soit de très négatif, si ce n'est qu'elles étaient illégales, qui se tenaient dans certains bosquets, certaines nuits d'été. Mais je n'en ai qu'une connaissance tout à fait par oui-dire.
Par l'oreille.
Vous dire par l'oreille, effectivement. Je demande pardon si je m'excuse.
Oui, non, mais...
Et je crois que le plus beau rêve de Versailles, c'est ce rêve qu'a voulu matérialiser Louis XIV dans ses jardins, en leur faisant exprimer ce qu'il dit lui-même, et qui est une des choses qui m'avait mis un peu la puce à l'oreille quand j'ai commencé à travailler. Louis XIV, au moment où il commence à dépenser pas mal d'argent pour monter ses jardins et son château, dit dans son journal, je suis resté sur des rêves partis, dit dans ses mémoires pour l'instruction du dauphin, il dit: il est utile, mon fils, de se remettre devant les yeux les vérités dont nous sommes persuadés, mais dont nos occupations, nos plaisirs, notre grandeur même effacent incessamment l'image dans nos esprits. Et donc l'idée m'est venue, ayant déjà à ce moment-là compris qu'il y avait un code dans Versailles, l'idée m'est venue que ce code exprimait les vérités dont Louis XIV était persuadé et qu'il voulait se mettre sous les yeux ou devant les yeux pour ne jamais les oublier. Je crois que ce trajet qu'on peut faire dans Versailles et que nous avons fait ensemble vaut largement tous les délires, apporte infiniment plus et a cette chose importante pour tout ce qui touche aux grandes joies, c'est qu'il ne rassasie pas. Lorsqu'on termine cette visite de Versailles, on a envie de la recommencer pour tenter d'aller plus loin.
C'est très vrai. Mais pour évoquer rapidement une actualité, pas très récente, mais enfin qui a 18 mois, est-ce que l'effet de la tempête a été de modifier, selon vous, la charge symbolique du parc?
Cette tempête a été beaucoup moins grave pour les jardins de Versailles que celle de 89. C'est-à-dire qu'à Versailles, on distingue trois cercles d'approche du château. Le grand parc, qui a aujourd'hui disparu, qui était enceint par un mur de 43 km. Le petit parc, qui est ce qui aujourd'hui contient le Grand Canal. Et puis les jardins. La symbolique versaillaise se développe sur les bâtiments, les jardins et le petit parc. Et le petit parc, dans sa partie du XVIIe siècle, évidemment. La tempête du 26 décembre 1999 a eu le bon goût, si je puis dire, parce que c'est quand même infiniment triste, de ne s'attaquer qu'aux abords du petit Trianon. Les arbres des jardins avaient été soit abattus par la tempête de 89, soit étaient en replantation. Alors c'est infiniment triste pour le petit Trianon et ses espèces rares qui nous venaient d'Amérique ou des Amériques, et pour toutes ces arbres bicentenaires qui ont péri dans cette tempête. Mais le petit Trianon n'est pas un lieu symbolique de Versailles. C'est un lieu tardif. Le petit Trianon a été construit par Louis XV vers la fin de son règne et n'appartient pas à cette symbolique.
Donc finalement, on ne peut pas dire que c'est... Si on considère ce que je crois, que le jardin, enfin le jardin est une espèce de machine... De machine à produire des énergies positives, cette machine n'a pas été endommagée par la tempête.
Alors, en ce qui concerne la machine à produire des énergies positives, je vous en laisse le soin de l'expression. En ce qui me concerne, je crois simplement qu'il y a des objets qui permettent de réfléchir. Et c'est la réflexion que l'on fait sur cet objet ou en ce lieu qui est productive. On peut toujours se promener avec des talismans ou des allumettes, ou des amulettes.
Avec des allumettes
aussi. Les allumettes sont plus efficaces. Des talismans ou des amulettes, c'est pas ça qui vous fera croître sur la voie de la spiritualité, ni vous ouvrira les portes du paradis. Il vaut mieux savoir pourquoi tourner à gauche est symboliquement mauvais. Alors que l'on monte son escalier chez soi en tournant à gauche, que de descendre ou de monter toute sa vie de cet escalier qui tourne à droite sans jamais réfléchir sur la question. Les symboles ne sont pas des talismans, les symboles n'agissent pas par contact magique. Les symboles appartiennent à la réalité naturelle, à la nature objective, ils ne sont donc pas magiques.
Alors ça, c'est ce que vous démontrez, comme j'ai eu la chance de faire cette visite avec vous, je peux en témoigner, c'est ce que vous démontrez quand on vous suit dans les jardins et que vous faites découvrir en même temps, c'est ce qui est passionnant d'ailleurs, en même temps les jardins et la méthode qui vous a permis de les décrypter. Et c'est une espèce de leçon de lecture qui utiliserait un roman passionnant pour apprendre à lire. C'est vraiment une expérience tout à fait troublante.
Alors, je suis heureux de ces compliments, mais je vais me permettre de préciser certaines choses. Effectivement, j'ai fait une recherche. Je me suis aperçu, assez jeune encore, et en dépit de mes études dans ce domaine, j'ai compris que la philosophie ne me servirait jamais à rien. Et mes études d'esthétique m'ont fait comprendre que ce n'était pas par l'esthétique, je veux dire celle qu'on enseigne aujourd'hui ou depuis la fin de la guerre, que je risquais de comprendre quoi que ce soit. Et donc j'ai décidé de chercher par moi-même, et mes études de physique m'ont permis de mettre au point une méthode scientifique pour faire cette découverte. Et après tout, c'est bien normal, l'objet d'art, en l'occurrence Versailles, est bien un objet. Et donc j'ai voulu l'examiner comme un objet et non pas à travers un Freudo, Marxo, Sartre, je ne sais quoi, qui ne m'a enseigné que des sottises. Donc il y a cet exposé là de la méthode que j'ai mise en œuvre. Mais ensuite, je ne peux pas, et vous me pardonnerez Serge Beckett, je ne peux pas accepter le mot lecture. Parce que lorsqu'on parle de lecture à propos d'une œuvre d'art, immédiatement on pense à lecture brechtienne. Et c'est-à-dire jeter le regard que l'on veut sur une œuvre pour lui faire dire ce que l'on veut.
Ah non, c'est pas du tout dans ce sens-là que j'entendais,
je sais bien,
évidemment.
Mais je ne voulais pas laisser passer le coche. Et donc, il n'était pas question pour moi de dire je vais faire une lecture althusserienne du domaine de Versailles. Je veux dire que, ayant mis au point cette méthode de pour comprendre le code, je préfère le mot décryptage. Et donc j'ai décrypté ce code, et avec ce code, j'ai décrypté Versailles. Ce faisant, je me suis trouvé confronté à une donnée de la civilisation mondiale qui jusque-là m'avait assez particulièrement échappé, qui était le symbole. Et symbole qui m'est apparu assez rapidement dans toute sa puissance et dans toute sa force. Or, aujourd'hui, on voit que les symboles sont utilisés soit par des sectes qui les détournent, qui veulent en faire des objets secrets à leur usage personnel pour se reconnaître entre eux, ou bien par des rêves sectes qui très gentiment utilisent les symboles pour se mettre à planer certainement entre deux pilules d'extasie et croire que c'est ainsi qu'on parvient à la connaissance du cosmos. Et paradoxalement, ce sont ceux qui sont nos plus proches amis dans notre pensée qui combattent l'idée de symbole, parce que on s'est bien chargé depuis bien longtemps de leur remplir le cerveau de l'idée que c'est soit sectaire, soit
Soit agnostique. Mais voilà. Ça, c'est la nouvelle version de la querelle des iconoclastes. Hein.
C'est exactement dans cette la profondeur de la querelle des iconoclastes. Entrer dans cette idée de ce qu'est la volonté de l'iconoclaste, ou au contraire la volonté de l'iconophile. C'est se poser des questions très profondes sur ce qu'est la nature au sens profond et non pas au sens rousseauiste du terme, et ce qu'est l'homme. Une religion qui cultive la représentation, l'icône, montre bien qu'elle veut inscrire l'image qu'elle se fait de l'homme dans l'idée de représentation.
C'est la différence fondamentale entre l'islam et le christianisme. L'islam, c'est la religion du désert. Le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Et c'est la raison pour laquelle l'image est intrinsèquement liée à toute la culture chrétienne. C'est parce qu'on est la religion de l'incarnation, alors que les autres religions, que ce soit le judaïsme, l'islam, ou même le protestantisme est assez éloigné de
la dernière querelle des icônes. C'est bien avec Calvin qui disait ce sont les idiots qui ont besoin d'images. Et d'ailleurs il le prouvait, si je puis dire, en détruisant tout ce qui était représentation dans la bonne ville de Genève,
comme les talibans.
Comme l'État quoi ?
L'État Liban détruise les Bouddhas.
Oui, c'est la même chose. Il y a une volonté, c'est une volonté avilissante au bout du compte pour l'homme. Il y a une erreur quand on dit
que... Je vous ferai remarquer que c'est toujours le cas, parce que je sais que je vais faire hurler en disant ça. Mais si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, la destruction du mandarome, c'est exactement la même chose que la destruction des Bouddhas en Afghanistan. Ça procède exactement du même mécanisme mental. C'est-à-dire que les talibans ont décidé que les bouddhas étaient des abominations et des horreurs. Ils les ont détruits, alors que les bouddhistes trouvaient que c'était des splendeurs esthétiques. Mais et nos fonctionnaires des sites ont décidé que la statue du mandarome était une horreur. Mais les adorateurs du Mandarome lui trouvaient que c'était splendide. Et donc, là, c'est vraiment un acte iconoclaste. On a décidé que les gens du Mandarome étaient une secte, ce qui est probable. On a décidé que cette statue était hideuse, ce qui est esthétiquement évident. Mais l'argument, le résultat final, c'est qu'on a détruit un instrument de culte. Et que quand on commence comme ça, demain, si un chien coiffé décide que nos cathédrales sont des horreurs, eh bien, on rasera nos cathédrales. Oui, et quand je dis un chien coiffé, je sais de quoi je parle.
On dit un chien coiffé.
Voilà.
Et il y a cette chose, effectivement, là, dans la destruction, qui est claire et nette, d'autant plus que si le Mandarome était indiscutablement une secte, ce qu'il y a de dommage, c'est de savoir que c'est une secte qui décide qui est secte et qui ne l'est pas.
Oui, accessoirement.
Mais c'est très important de l'image. Dieu fait l'homme à son image est complètement détourné. On n'a pas dit pour autant que Dieu avait deux yeux, un nez, une bouche. Dieu a fait l'homme à son image, comme on dit que la maison de quelqu'un est à son image. C'est-à-dire que Dieu a fait l'homme selon son projet. Et évidemment, on joue sur ce terme pour faire des images. Cette image qui représente, c'est-à-dire qui rend présent. Et l'image sainte, pieuse, qu'elle soit catholique, aztèque, bouddhiste, cette image rend présent. Et c'est cette présence qui est insupportable à ceux qui ne veulent pas, en fait, que la divinité, même si pour moi Dieu est Yahvé, mais je dis la divinité en général, que la divinité dans la pensée, dans les religions en général, soit présente dans leur vie. Or,
d'ailleurs, il y a un paradoxe, parce que si ça les préoccupe autant, les images,
c'est exactement qu'ils ont raison.
C'est que, donc c'est bien ce qu'ils prétendent que ça n'est pas.
Non, mais exactement, mais c'est comme les gens qui demandent qu'on fasse taire les cloches dans les villages.
Oui, voilà.
On sait bien que les cloches servent à éloigner le diable.
Ouais, ouais. C'est comme Charras qui rentre pas dans les églises pour les enterrements de ses amis.
Alors,
pourquoi vous n'entrez pas dans une église? Il dit parce que j'y crois pas. Alors s'il croit pas, que ça peut lui foutre de rentrer dans une église. Mais non, il veut pas rentrer dans
une église. Non, mais c'est une vision marxiste. Hein, alors,
moi, je suis pas superstitieux parce que ça porte malheur.
Ça porte malheur. Ça. Mais je n'y crois pas, donc l'existe ne doit pas exister.
C'est rigolo.
Il y a cette chose étonnante.
Si on veut faire, ce genre de conversation, on peut l'avoir avec vous en direct. On n'est pas obligé de passer par Radio Courtoisie. On peut.
Moi, j'aime bien passer par Radio Courtoisie.
Évidemment, ça vous permet de parler à un peu plus de monde, mais on peut aussi vous accompagner parce que vous consentez à faire des visites.
Je fais toujours des visites dans
un tout petit nombre.
Je ne voulais pas dépasser 25 personnes et puis je me suis aperçu qu'à 50 ça marchait très bien.
Ah bon ?
Oui.
Sérieusement ?
Sérieusement, oui.
Personne ne vous interrompt, personne n'ose parler. Non. C'est ça.
Ah non, mais m'interrompre moi ?
Oui.
Non, mais comme vous l'avez constaté, j'aime bien qu'on m'interrompe.
Donc, est-ce qu'il faut lire le livre avant de visiter ou après ? Là, voilà, un conseil précis.
Un conseil précis, eh bien, il vaut mieux de toute façon lire le livre, mais si
avant et après.
Si on fait la visite, je crois que la question ne se pose plus, parce qu'ayant fait la visite, on a très envie de lire le livre.
Ah oui, c'est ça. Mais on peut le lire avant. Moi, je trouve que c'est bien de le lire avant parce que d'abord, ça permet de vérifier si vous croyez vraiment ce que vous écrivez. si vous savez ce qu'il y a dans le livre, parce que vous savez que j'ai reçu, moi, dans cette émission, des gens qui venaient de parler de bouquins. C'était d'ailleurs dramatique parce que j'avais pas lu le livre. Je les invitais pas.
Et eux non plus.
Et eux non plus. Ils l'avaient signé, mais ils l'avaient pas lu. Ce qui rendait la conversation quand même un peu étrange. Enfin, bref. Par exemple, la personne en question, quelqu'un lui dit, mais vous citez telle personne dans votre... Je donne pas de détails, mais je vois pas qu'ils se reconnaissent. Ça serait vexant. Vous citez tel auteur dans votre livre. Il dit, non, pas du tout. Il était cité 10 fois, l'auteur en question. Donc, c'était là vraiment... Donc, voilà. Alors, ce livre, on l'a pas cité encore... Il s'appelle Versailles, Desjardins vers ailleurs. On en a parlé plusieurs fois dans cette émission.
Souvent ici, oui.
Le testament secret de Louis XIV. Et alors...
C'est chez qui ?
C'est chez AMDG. Albert-Marie Durand-Grandin. Non, ce qui veut dire ad majorem dei gloriam.
Voilà.
C'était la devise de
Jésus.
Voilà. Petite armoire en fer. Et que l'adresse, c'est 4 rue Salomon Reinach, ou Reinach, 78100 Saint-Germain-en-Laye. Et le prix du livre, il faut le donner parce que...
on peut me le commander directement voilà. À MDG en envoyant un chèque.
Alors
ce
MDG,
jour,
l'adresse, c'est
4 rue Salomon Reinach,
78100 Saint-Germain-en-Laye. Et vous envoyez un chèque de...
Alors le livre coûte 230 francs, 230. Frais de port inclus. Je me permets de rappeler que les frais de port sont forcément inclus.
Ils sont franco, voilà, encore.
Franco, ah oui,
et les visites, alors, vous les faites voilà. Quand?
Eh ben, on va voir ça tout de suite, je sais pas, on va demander à Vincent, mais je crois qu'il veut dire quelque chose à propos du général. Non, vous vouliez pas évoquer la personnalité du général Franco?
Oh, ça, je le ferai très volontiers, mais simplement, je pensais à cette chose triste qui est, nous allons perdre notre liberté en perdant le franc qui nous libérait pour aller vers l'euro qui n'a pas de sens. Et je me demande si ceux qui ont inventé ce mot de euro ont simplement cru que le franc s'appelait franc parce que c'était la devise des Français.
Oui, j'en suis sûr.
Je crois que leur inculture doit aller jusque-là.
Et alors maintenant, ils appellent ça l'euro, ce qui en grec veut dire l'urine.
Voilà, mais comme ça...
On voit pour le progrès. Mais à propos, je signale, je vais encore me faire un peu de réclame, dans le prochain numéro du Libre Journal, vous allez découvrir un article à peine croyable, et je vous jure que c'est la vérité, à l'heure actuelle, et j'en apporte la preuve par les textes, n'importe qui peut, sans courir aucun risque de légal, fabriquer des faux euros. Parce que dans le foisonnement de textes qui ont accompagné l'érection de l'euro en monnaie unique, ils ont tout simplement oublié d'interdire la fabrication des faux euros. Et alors maintenant, c'est la panique totale, c'est-à-dire que le Sénat vient d'être appelé d'urgence à voter un texte, parce qu'ils se sont aperçus qu'ils oubliaient ça, et que donc n'importe qui pouvait faire des faux euros, et on ne pouvait absolument pas le traîner devant les tribunaux. Et je vous recommande la lecture de cet article, qui est tout à fait intéressant.
Et de ne pas céder à la tentation ouverte par ce vide juridique.
C'est compliqué. Hein. Il faut vraiment des appareils sophistiqués, comme on dit maintenant. Vous aimez bien le mot sophistiqué?
J'aimais beaucoup le mot sophistiqué quand on disait d'une jeune fille qui était sophistiquée. J'aimais beaucoup, mais peut-être d'une machine qui est sophistiquée.
Mais pas d'un billet, non?
D'un billet, même non. Chose. Je pense qu'il s'agit d'un abus de langage. Prouvant une vacuité intellectuelle.
Alors, ces visites, vous avez des dates à proposer?
J'ai des dates.
Sinon, vous pouvez proposer des fraises ou des cerises ou des bananes, mais des dates, ça plaît aussi beaucoup.
Les dates, ça plaît aussi beaucoup, mais je m'aperçois que mon papier a disparu.
Non, il est là.
C'est moi qui l'ai.
Voilà. Donc, j'invite à me joindre. Non, mais je vais en avoir un autre. Voilà, alors, il faut dire quand même de quoi il s'agit. Il s'agit donc de s'inscrire pour faire cette visite dans les jardins de Versailles. Et c'est une visite qui est assez structurée, disons-le, puisqu'on se retrouve à 11h15 près du Grand Canal, avec le pique-nique dans le coffre de la voiture. Et
donc si vous n'avez pas de voiture, vous restez chez vous.
Vous pouvez venir avec votre petit...
chariot.
Ou votre sabretache.
Oui.
Et là, on fait cette visite selon les trajets de Louis XIV. Donc, on fait une visite
à pied. Hein, la visite n'est pas en voiture.
À pied, ni à cheval. Elle est à pied. On fait donc une première partie de cette visite qui nous mène sur les chemins de l'humanisme et le premier parcours de l'honnête homme. Et puis là, on se retrouve près du Grand Canal où enfin on peut manger et boire.
Enfin, une chose intéressante.
Et ensuite, on part à nouveau faire les deuxième et troisième chemins de l'honnête homme. Et on termine, selon mon plan, à 4h de l'après-midi, selon la réalité des gens qui m'ont accompagné à ce jour et qui posent beaucoup de questions, vers 5h. Voilà, donc il y a
quelques
dates.
Et là, on va prendre le train ou sa voiture et on rentre.
Et on a le droit de rentrer.
Et on rêve.
Et donc,
on rêve RE accent circonflexe.
Voilà. Donc, il y a des dates qui sont proposées. qui sont en juin, samedi 16 et dimanche 17, c'est sursaturé, donc cette date n'existe plus. Samedi 14 ouais, juillet,
c'est juste pour dire, nanana, vous ne pouvez pas venir là. Là
oui, oui. 14. Samedi 14 et dimanche 22 juillet.
Ah, le 14 juillet, c'est le jour de Jamel.
Alors, de tout temps, j'ai toujours fait un pèlerinage dans les jardins de Versailles le 14 juillet, non pas pour la raison à laquelle vous pensez dans votre esprit pervers, mais parce que vous savez...
Un peu bonnet, en plus.
Le 14 juillet 1689, c'est le jour où Marguerite Marie Alacoque a reçu le refus signé du Père Lachaise de faire graver le Sacré-Cœur sur les arbres de France.
100 ans plus tard, la fracture.
Proposition qui n'est jamais parvenue aux oreilles de Louis XIV. Et donc ceci se passait le 14 juillet.
Le Père Lachaise qui était un...
Mais pas la faute
du... Qui était un jésuite.
Qui était un jésuite. Décidément, c'est la faute... Tiens, voilà Adeline qui arrive. Donc nous ne serons pas dans une soirée sans Adeline.
Mais ce qui veut dire que le Père Lachaise...
Il faut bien dire qu'à cette époque, la Compagnie de Jésus était déjà assez divisée et qu'il y avait d'un côté ce qu'on peut appeler les mystiques qui ne rêvaient que d'une chose, c'est d'aller se faire manger vivant après s'être fait un peu rôti par les Iroquois et les Hurons. En général, les Iroquois, parce que les Hurons étaient théoriquement les alliés des Français.
Ils étaient plutôt végétariens.
Non, ils étaient plutôt les alliés des Français, ils mangeaient plutôt de l'anglais. Et on leur laisse.
Ils n'étaient pas dégoûtés.
Non, ils n'étaient pas. Non. Bon. Et alors, les fervents voulaient fonder la Nouvelle-France. Et puis les autres, eh bien, ils traficotaient à la cour et ils imaginaient des réconciliations formidables. Et il y a une bonne étude qui a été faite par le professeur de Vigry qui montre que dans les récits de ces jésuites modernes, on passe beaucoup de pages à défendre le Dieu unique, mais on expédie le Dieu trinitaire en quelques lignes, juste ce qu'il faut pour rester catholique, mais qu'on va pas non plus passer son temps à des dogmes aussi compliqués.
Il faut éviter de lancer Eric sur les jésuites, parce qu'en général, ça excite sa verve. Il y a une très belle histoire à propos de la Compagnie de Jésus, non ? Vous vous rappelez de cette blague ?
Il y en a tellement, non ?
Il y en a quand même quelques-unes.
Elle est désagréable pour les
jésuites.
Mais cela dit, les jésuites, au bout du compte, ce qui est très important à dire, c'est ce que
vous connaissez l'expression romaine, quand même. Quand il y a un blanc, quand il y a un silence, ce qui n'arrive jamais dans vos émissions, à Rome, au lieu de dire un ange passe, on dit un jésuite entre au ciel.
Mérite d'être remarqué, bien sûr.
Non, mais les jésuites, c'est infiniment composé.
À propos,
alors donc, je vais finir quand même, il y en a d'autres après. Il y a le dimanche 26 août et les dimanches 9 et 23 septembre. Et le mieux, c'est de décrire à l'adresse que je vous ai donnée.
Je le répète, AMDG, 4 rue Salomon-Reynard, 78 100, Saint-Germain-en-Laye.
Et on participe aux frais.
Et les frais, alors attendez, vous nous dites les frais.
Pour ce genre de choses, je préfère vous faire confiance.
130 francs par personne. Plus 28 francs de droit d'entrée dans les jardins, les dimanches des grandes eaux. Alors, inscription par courrier uniquement et par chèque à l'ordre de AMDG.
Voilà. On publiera, je vais publier ça dans le Libre Journal, d'ailleurs, les dates. Parce qu'après tout, ça simplifiera le choix des auditeurs.
J'ai deux petits messages. Alors, le père d'une amie épuisée... Après un infarctus, a récupéré rapidement en allant tous les jours dans le parc de Versailles. Personnellement, j'ai repéré un endroit précis où l'on ressent des vibrations. J'y emmène des gens fatigués psychiquement et qui se trouvent réénergisés. C'est un emplacement circulaire et on est attiré vers le centre comme par un aimant.
Eh bien, tant mieux pour ce monsieur, mais...
Vous êtes dame,
mais je ne participe pas à ce genre de magie.
Et une question, les arbres qui ont été replantés ne sont-ils pas trop proches les uns des autres, notamment le long des allées ?
Alors, en ce qui concerne cela, les arbres sont plantés par des gens hautement professionnels et je n'ai vraiment rien à dire. En revanche, on s'obstine à planter des arbres dans l'allée royale, sur le tapis vert, dans un endroit où il n'y a jamais eu d'arbres du temps de Louis XIV. Et cette plantation est d'autant plus pénible que elle masque en partie les statues.
du temps de Louis XIV, les statues étaient placées à une toise, c'est-à-dire à 1m91, devant ces grands... comment appelle-t-on cette plante ?
Rideau de verdure.
Devant un grand rideau de verdure taillé très droit et qui montait à 12 mètres de haut. Et les statues étaient une toise devant, ce qui fait qu'elles étaient infiniment présentes dans l'allée. Mmh. Aujourd'hui, pour des soucis romantiques pervers, sans doute, on les masque de verdure, ou bien peut-être est-ce que pour habiller leur nudité qui choque certains fonctionnaires, mais enfin, toujours est-il que...
Certains ayatollahs.
Ou pas des ayatollahs, ça va être ça. Je suis scandalisé qu'on s'obstine à mettre ces arbres-là qui empêchent ces statues de s'exprimer correctement.
Merci Vincent. Alors,
Avez-vous vu l'horrible timbre édité par la Poste française qui représente les jardins de Versailles dans le style des colonnes de Buren ? 4 francs 40.
Le juge d'application des peines m'a épargné cette vision.
Dans les bois de Viroflay, près de Versailles, il y a des séances bizarres à côté du cimetière. Bon. Et à ce propos, un auditeur nous signale l'excellent article de Daniel de Bekech dans le libre journal de la France courtoise sur le satanisme.
Ah, sur Halloween, oui, mais ça on en parlera plus longuement dans une prochaine émission. Vous rappelez l'adresse de Ad Majorem Dei Gloriam, AMDG
4 rue Salomon Reynard, R-E-I-N-A-C-H, 78 100, Saint-Germain-en-Laye.
Voilà, ça c'est pour connaître les dates des visites. Madame Albéric de la Forêt d'Yvonne, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur.
Nous sommes en direct à l'antenne et je vous ai demandé de nous appeler pour nous dire où en est votre... projet très avancé de cercle légitimiste, Bonchamp.
Oui, écoutez, vous êtes bien aimable de me redonner l'antenne. Alors, je voulais vous confirmer que nous sommes en train de rédiger les statuts de l'association Charles de Bonchamp, un cercle d'études historiques légitimistes. Et la prochaine réunion aura lieu le 16 juin. Autour du livre du professeur de la Sorbonne, Claude Rousseau, sur son livre « Les illusions républicaines ». Donc la prochaine réunion aura lieu le 16 juin à 16h près de l'Étoile.
Oui.
Donc je vous redonne mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent s'inscrire. C'est le 06 64 91 05 98. Il faut me téléphoner uniquement qu'à partir de dimanche prochain.
Entendu. Et si on veut vous écrire, en attendant que vous ayez une adresse...
Le monsieur de Beckett veut bien que jusqu'au 10 septembre à peu près, vous m'adressiez le courrier à son journal qui s'appelle Le Libre Journal de Serge de Beckett, 4 places François Litz, dans le 10e.
J'aime bien le François, donc, parce que c'est comme ça qu'on doit dire.
Je passerai de temps en temps chercher mon courrier et je répondrai personnellement à chacune de vos lettres.
Voilà. Merci, Madame Albéric de la Forêt d'Yvonne. Je crois que nous sommes maintenant au bout du temps qui nous est imparti. Je vais comme ça pouvoir avoir le plaisir de voler 20 minutes à Daniel Amiche pour renouer avec une tradition, hélas, fâcheusement oubliée. Bien, on va continuer, donc, comme je l'ai dit, pour voler des minutes à Daniel Amiche. Le docteur Dor est là, je lui donnerai la parole tout à l'heure, comme ça il fera la liaison avec Daniel, il se mettra du lien. Daniel ne pourra pas m'en vouloir d'avoir donné la parole au docteur, donc ça ira bien. Et avant, je donnerai la parole à M. Charousset pour présenter l'association Aventure et Tradition qui emmène des enfants à l'aventure dans le respect de la tradition. Mais il y a des messages que vous voulez peut-être lire, Victoria.
Oui, une auditrice nous demande si vous pouvez nous donner des nouvelles du docteur Plantet, pour qui vous nous avez demandé une pensée amicale il y a quelques semaines.
Oui, j'avais demandé non seulement une pensée amicale, mais des prières. Et ben, le docteur Plantet va mieux, il est en train de se reposer, et je pense qu'il va revenir... reprendre ses activités, avant, je crois, aux alentours du 20 juin, me semble-t-il. et il prépare une intervention dans cette émission. Il sera réinvité prochainement pour parler des sujets qui vous passionnent
et très bien.
Dans lesquels il est si brillant.
Et puis, félicitations pour votre émission de la semaine dernière sur fascisme et catholicisme. Quand réinviterez-vous Monsieur Joseph Merel?
Alors, Joseph Merel, c'est l'auteur de Fascisme et monarchie. C'est un livre qui est paru il y a très peu de temps, qui est un livre extraordinaire, tout à fait passionnant, tout à fait original, nouveau et d'une lecture ardue, mais pas lourde, parce que ce sont des petits chapitres très courts et très très bien fabriqués. Je ne sais pas quand je recevrai encore Joseph Merel. Ce que je peux dire, c'est que la dernière fois, ça m'a valu quand même de perdre un abonné du Libre Journal qui m'a téléphoné le lendemain en me disant « Vous avez reçu un fasciste et un nazi, et donc je me désabonne de votre journal. » Alors, j'ai réécouté l'émission. Je dois dire que, je sais pas, c'est comme si ce soir on me disait à propos de Lebec que j'ai reçu un adepte des sabbats. Je crois que c'est pas parce que les gens parlent de certains sujets qui sont forcément qu'ils adhèrent au sujet qu'il traite. Enfin, il faudrait quand même faire un peu la différence entre l'auteur, le sujet de son œuvre, la façon de traiter cette œuvre. Ça me fait penser ce genre de réaction à ces flics qui, quand ils arrêtent Roger Hanin en voiture, lui disent « Oh, pardon, commissaire ». Il faut savoir que Roger Hanin n'est pas commissaire, c'est un gros comédien qui joue le rôle d'un gros commissaire. Et il faut pas tout mélanger, voilà. Donc, un auteur n'est pas forcément fasciste parce qu'il écrit un livre sur le fascisme. Ça me paraît lumineux, mais apparemment, certains ne comprennent pas très bien. Qu'est-ce que je vous dis? Et puis alors, j'ai une grande bonne nouvelle, c'est que le père Argouache a, semble-t-il, conclu les démarches d'acquisition de la propriété bretonne, du petit village breton. Et je pense qu'on pourra vous donner des informations très rapidement. De bonnes informations. Voilà, et il va falloir maintenant faire, vous savez quoi, docteur, mais comme d'habitude.
Mais bien entendu.
La main à la poche.
Ça, c'est une...
On s'en sort pas.
Il y a deux jours.
Magnifique. Il était à...
Ah oui, il était au pèlerinage.
Au pèlerinage, bien sûr. Il est arrivé, il était comme un lumignon, mais alors il est arrivé à la maison, il était rouge comme une pivoine. Et vous savez que, entre nous, hein, je vous dirai à personne, mais... Il est fou, cet homme-là. Il a fait le pèlerinage. Il fallait qu'il soit dimanche matin pour la messe à
oui,
Riomont. Donc, il est parti. Il a fait la veillée du pèlerinage, le samedi soir. Ensuite, il a pris sa voiture. Il est allé à Riomont. Il est arrivé à Riomont à 3h du matin. Il a dormi 2h. Il s'est levé. Il a fait la messe. Il a repris la voiture. Il est venu finir le pèlerinage. Je lui dis...
Hein, parce que j'ai vu avant et après.
Je lui dis, mais je sais pas comment on fait. Il va, je sais pas, il doit avoir 12 anges gardiens qu'il porte. C'est vraiment un personnage. Oui. Je me permets de le dire parce qu'il est pas là. Si, autrement, il m'en voudrait. Mais c'est incroyable.
Et disponible.
Il y a un dernier message d'auditrice. Il y a un livre qui vient de paraître, mais qui est paru depuis un certain temps, je pense, parce qu'on avait reçu l'auteur. Culture baroque et gothique flamboyant. La musique extrême, un écho surgit des abîmes par le père Benoît Domergue ou Dumergue.
Domergue,
oui. Édition François-Xavier Le Guibert.
Oui, c'est un très bon bouquin. Culture baroque, ça s'écrit R-O-C-K, bien entendu. Alors, cher monsieur Charousset, est-ce que vous voulez bien nous rappeler à nos auditeurs ou apprendre aux nouveaux ce qu'est Aventure et Tradition?
Volontiers. Bonsoir d'abord et merci de votre accueil. Et bonsoir également aux nouveaux auditeurs à qui on va donner les informations initiales. Aventure et Tradition est un mouvement de jeunesse sportif montagnard pour garçons et filles de 8 à 18 ans avec un entraînement progressif qui va leur permettre d'évoluer en moyenne puis en haute montagne dans des conditions optimum de sécurité. Que peut-on dire? La montagne, qu'y a-t-il de mieux que la montagne?
Ils font pas de saut à l'élastique.
Non, ils non. font pas de saut à l'élastique.
C'est vaut mieux parce que là maintenant, quand l'organisateur de saut à l'élastique est pas capable de mesurer la longueur du bon du bonheur élastique, on peut commencer à se poser des questions.
Non, non, on n'est pas du tout prêt à prendre ce risque, puisque, comme on dit maintenant fort à la mode, c'est, on essaie d'atteindre le risque zéro.
Le risque zéro.
Voilà, c'est ça. Bon, le risque fait partie de
les. Ah bah en montagne, c'est quand même difficile. La meilleure solution pour le risque zéro, c'est de rester au lit.
Rester chez soi et encore, à condition de ne pas glisser dans l'escalier au moment où on se lève.
Les gens attrapent des escars en restant au lit. Donc, on est à l'abri, voilà. À l'abri de rien.
Voilà. Alors bon, pour inculquer donc aux enfants le sens de l'effort, la discipline, la ténacité. Oui, que de choses, je sais. Je ne devrais pas dire ça.
Discipline, le sens de l'effort,
oui,
la ténacité.
Oui, monsieur. Le respect des anciens, même le respect de la famille, même.
Pas l'amour de la patrie, quand même.
Si, si, bien sûr que si. Ah, si, si, je vous assure. J'ose à peine le dire, mais. J'avoue, monsieur Beckett.
L'amour de Dieu, certainement.
Aussi. L'amour de Dieu également, oui. La spiritualité, vous avez raison. Mais oui, que de choses.
C'est vraiment.
Que de choses affreuses.
Quelle perversité, incroyable.
Oui, je le regrette.
Il vaut mieux de les envoyer dans des rêves partis.
Eh oui, mais bon, alors en compensation, néanmoins, il y a quand même des choses. Nous avons des feux de camp, des veillées où l'on chante à tue-tête les vieilles chansons françaises.
Ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, ça, des feux de camp où on chante.
Voilà, absolument. Et le bivouac aussi, on peut rappeler le bivouac, le plaisir du bivouac.
Bivouac, il n'y a rien à dire, c'est un mot étranger. Donc là,
Bon, d'accord, ben j'en suis bien content.
Ouais, bivouac,
donc le bivouac, avec le plaisir de se pelotonner dans son sac de couchage, de considérer le firmament avec sa multitude d'étoiles. Ça, c'est sûr que ça incite à la méditation. Donc encore une chose.
Est-ce que ça les prépare à l'existence future?
C'est un petit peu le but que nous recherchons, hein, c'est de les préparer à l'existence future.
En tout cas, ceux que j'ai vus, ceux que j'ai rencontrés, ils n'ont pas l'air de trouver ça trop désagréable dans l'ensemble.
Non, ils n'ont pas l'air perturbés, a priori comme ça. Ils ont, ma foi, l'air très bien, ils s'en trouvent très bien et ont envie de recommencer, envie de recommencer chaque année.
Au fond, quelle est la différence fondamentale, si j'ose dire, entre le aventurier tradition et le scoutisme?
Oui, je suis habitué à cette question. Il y en a une à la base, bon, qui n'est pas essentielle, c'est que les garçons et les filles sont ensemble. Les garçons et filles, c'est mixte, hein, l'aventure et la tradition. Évidemment.
D'après ce que j'ai entendu dire, chez les scouts de France aussi, ils sont ensemble. Ils vont en boîte.
Oui, c'est ça, oui, mais nous, c'est dans les activités seulement que les garçons se retrouvent avec les filles, essentiellement. Hein.
Donc, et à 8 ans, quand même, là, c'est.
Oui, mais on va de 8 à 18 ans. Hein. On a toutes les tranches d'âge.
Vous avez des fouets, vous avez des seaux d'eau, vous avez quoi?
Non, même pas. Dans notre genre d'activité, l'exploit sportif suffit largement.
C'est vrai que quand on a fait une paroi, en général,
j'aime autant vous dire que quand vous avez fait,
on est moins intéressé.
D'abord une approche de la montagne, une première approche de la montagne qui a demandé une demi-journée. Que vous bivouaquez et que vous repartez le lendemain à la première heure pour faire l'ascension suivant la capacité de l'enfant. Évidemment, on leur fait pas faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire, suivant l'évolution de l'enfant par rapport au stage qu'il a déjà fait, etc.
C'est Adeline Boud ou il veut pas venir ou qu'est-ce qu'il reste là dans son coin?
Dans son tour.
Mais il peut rentrer quand même, hein, il a le droit.
Il attend son tour.
Attendez, je squatte ton émission là.
Alors on peut dire, bon, autre chose nouvelle pour nous, pour cette année, c'est que nous évoluons dans les Pyrénées. Nous étions quelques années dans les Alpes, nous évoluons dans les Pyrénées pour une raison principale, c'est que nous avons beaucoup de très jeunes, donc on ne veut pas tout de suite leur faire faire des choses trop difficiles dès le départ.
Et c'est moins difficile, les Pyrénées.
Les Pyrénées sont un peu moins abruptes que les Alpes. Hein, donc oui,
ça, c'est contraire.
Oui, vous aviez pensé que... Oui.
Non, je pensais que
c'était des montagnes plus anciennes.
Elles sont plus anciennes, donc plus l'érosion est quand même plus conséquente sur les Pyrénées. Quoique
mais tout ça, ça le même.
Mais il y en a pour ça.
De toute façon, il n'y a plus de Pyrénées, c'est connu.
Ah ben c'est pour ça qu'ils y vont, c'est facile. Alors. C'est vrai, j'aurais dû y penser.
Il y a quand même nous sommes à proximité du pic du Midi, qui culmine quand même à 2865 mètres.
C'est 2000 mètres de moins que le Mont Blanc, effectivement.
Voilà. Donc c'est un petit peu plus, mais disons que sans plaisanter, c'est un petit peu plus propice à la randonnée. Voilà, pour les plus jeunes, c'est un peu moins difficile.
C'est un coin magnifique. Hein.
C'est super. Nous sommes Ça s'appelle.
Le suspense.
Le
suspense s'installe. Comment s'appelle ?
Le massif, voilà, alors, excusez-moi, le massif de la Néouvielle.
Néouvielle.
Bon. Alors, nous sommes à la base du pic du Midi, et nous avons à proximité un torrent qui s'appelle le Bastan.
Et combien de temps ça dure,
le camp dure du 10 au 25.
Juillet ?
Au 25 juillet. Du 10 au 25 juillet.
Donc déjà, vous êtes sûr que pour le 14 juillet, vos enfants ne seront pas lâchés à la République ?
Alors, pour les amateurs des géants du Tour de France, ils auront le plaisir de voir passer le Tour de France, puisque nous serons installés juste à proximité. Nous avons dû d'ailleurs calquer notre séjour pour ne pas subir les inconvénients du passage du Tour de France.
Okay. Alors, comment ça se passe ? Il faut s'inscrire dans la
Il faut s'inscrire, et surtout maintenant, très rapidement, parce que le temps, c'est urgent. Alors, on peut parler peut-être...
Il y aura combien d'enfants
Là, en l'état actuel des choses, nous sommes environ 25. Hein. Nous sommes 30 et quelques. Ouais. Ça fait un camp de 30, un peu plus de 30 personnes pour l'instant.
Ouais. Et vous envisagez d'aller jusqu'à combien ?
Ah ben, on peut aller jusqu'à... On a l'encadrement nécessaire pour encadrer, voire 30, 40 enfants.
Hein. D'accord.
Puisqu'on a 10
Donc,
cadres.
Il
y a des possibilités. Les seules restrictions actuellement, c'est du point de vue transport. Alors le transport actuellement, nous pouvons accueillir encore 3 ou 4 enfants, mais sinon après il faut qu'ils se débrouillent par leurs propres moyens, mais ça pose pas un problème fondamental, sauf pour le portefeuille des parents qui auront à payer peut-être un peu plus, eu égard au fait qu'ils ne bénéficieront pas du tarif de groupe.
Les premiers inscrits auront...
Dépêchez-vous, comme dirait le charlatan, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde.
Poussez pas derrière.
Alors, donc, on peut quand même parler prix, si vous voulez, un peu, oui.
Est-ce que vous avez un numéro de téléphone où on peut retéléphoner
Volontiers. Alors, nous avons un téléphone fax dans les deux cas, Paris et province. Alors, pour Paris, c'est le 01 39 82 01 37. Oui. Pour la province, c'est le 05 46 74 54 39.
Je préfère celui-là, moi. Je trouve plus.
Alors, un autre numéro pour les parents qui seraient intéressés, parce qu'il y a quand même un problème d'équipement. Il faut que l'enfant, la tenue est obligatoire. Il y a une tenue obligatoire qui concerne une chemise bleue. Un knickers de couleur, il y a une tenue, donc il faut se renseigner auprès de la personne qui s'occupe de l'équipement, qui s'appelle Jacqueline, alors qui est au 01 39 60 61 53. Alors l'appeler de préférence, on peut l'appeler tous les jours, sauf aux heures des repas parce qu'elle s'occupe d'enfants. Et puis à éviter, si l'on peut, de l'appeler le lundi soir et le vendredi soir parce qu'elle fait ses courses.
Donc mardi, mercredi, jeudi et le reste du temps, vous laissez cette mère de famille
vaquer
à ses occupations maternelles.
Parce qu'elle vaque.
Le prix,
toujours maintenu depuis des années, pour les enfants de plus de 12 ans, 3400 francs le séjour. Bon, il y a plus le transport, bien sûr, plus l'inscription annuelle qui est une seule inscription qui compte pour toute l'année, qui est de 200 francs. La licence FFME...
Ce qui est le cas de beaucoup d'inscriptions annuelles, durent toute l'année.
Oui, elles marchent, les inscriptions annuelles, généralement.
En général, c'est à l'année.
C'est à l'année. Je ne sais pas pourquoi, mais...
Non, mais c'est comme ça.
C'est logique.
C'est comme les abonnements annuels au Libre Journal.
C'est à l'année. Alors, peut-être avec le Libre Journal, je ferais peut-être...
Un effort, parce que
annuellement, il y en a qui payent deux fois la cotisation, j'en connais, qui versent...
Au Libre Journal ?
Oui, au Libre Journal.
Il faudra me donner les noms, alors. C'est pas Adeline, en tout cas.
Donc, nous disions que plus de 12 ans, c'était 3400 francs, plus 200 francs d'inscription.
Ouais, plus la licence, donc le voyage, le transport est en plus. Alors, le transport à partir de Paris est de 630 francs. La licence FFME est de 155 francs.
Ça peut paraître un peu cher, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte le plaisir de débarrasser des enfants pendant 15 jours.
C'est jamais trop cher.
Et les enfants, d'être débarrassés des parents.
Et comment? Alors les enfants de plus de 12 ans, puisque nous avons parlé de ceux de moins de 12 ans, pardon, puisque nous avons parlé de ceux de plus de 12 ans, c'est 2900 francs. Alors plus transport, là aussi, il est moins cher parce que c'est le transport. La SNCF est moins chère aux plus jeunes, 360 francs. L'inscription annuelle, toujours pareil. La licence FFME, toujours pareil. Alors pourquoi cette petite distorsion entre les prix des plus grands et des plus petits? Parce que les activités ne sont pas les mêmes. Donc les activités en montagne font appel à des gens qualifiés et d'autre part à un matériel toujours relativement sophistiqué.
Moi, encore une fois, j'aurais fait payer plus cher pour les plus jeunes parce qu'ils sont quand même beaucoup plus encombrants.
Oui, embêtants.
Mobilisants.
Embêtants, voilà. Oui. C'est cela.
Très bien. D'accord. Alors,
un auditeur vous envoie tout.
Alors, excusez-moi.
Nous finissez.
Des facilités de paiement quand même pour les gens qui auraient. Alors, des remises. À partir de deux enfants, vous avez une remise sur le prix du deuxième enfant. Sur le prix du séjour du deuxième enfant, évidemment, pas le prix de l'enfant lui-même. Et
on n'en est pas encore là.
On n'est pas encore là, mais on ne sait-on jamais. Hein. Vaut mieux le préciser. Hein.
Oui, il vaut mieux parler tant.
Voilà. Et que disais-je
déjà? Le prix de la remise quand vous avez deux
enfants. Oui, alors de 10% à partir du deuxième enfant, hein, sur le séjour du deuxième enfant. Et si un enfant fait deux séjours dans l'année, il a également une remise de 10%.
Et à partir de 15 enfants, on vous donne de l'argent.
On l'a pas prévu encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, du point de vue facilité de paiement, on peut payer en trois fois, hein, si vous voulez que j'abrège. Donc, J au jour J, donc c'est J-30, puis J donc au départ des vacances, et J+30. Voilà. Alors, la messe, je peux ajouter encore quelque chose?
Oui, une seconde.
La messe traditionnelle est dite sur le camp. Donc, deux messes traditionnelles seront dites sur le camp. L'une le 15 juillet, l'autre le 22 juillet. Elle est dite par les prêtres du prieuré des Cœurs de Jésus et Marie situés à Lourdes.
Très bien.
Et un auditeur vous envoie ses encouragements en disant « Partez donc sans crainte en montagne. Le lit est l'endroit le plus dangereux du monde. Les statistiques sont formelles, c'est dans son lit qu'on meurt le plus. »
Voilà. Merci.
Oui, mais la statistique, c'est vrai. Il y a une autre statistique qui est très intéressante qui est affichée chez mon excellent camarade l'Alzaco. Il a collé ça sur le mur de son restaurant. Il y a, à l'intérieur, il y a, 20% des accidents de la route sont provoqués par des conducteurs en état d'imprégnation alcoolique. Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter
les 80%
qui ne boivent pas? Voilà, docteur, je vous laisse entre les mains de Daniel, ouais, qui rêve de me voir partir.
Je ne rêve plus, là.
Merci beaucoup d'avoir patienté. Docteur, restez donc assis. Voilà. Ne vous sauvez pas. Merci à tous. Merci à la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs qui nous retrouvent pour cette seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Bonsoir, chère Jacqueline.
Bonsoir, Daniel.
Comment allez-vous?
Bien.
Vous n'aimez pas quand je dis comment allez-vous?
Non, c'est vrai.
Moi, j'ose plus faire de liaison sur cette radio parce que je suis plus...
Écoute, il vaut mieux ne pas en faire que d'en faire de mauvaise.
Le 6 mai ou le 6 mai, il y a un grand débat qui s'est instauré, qui a mobilisé d'énormes dictionnaires, des sommités de l'Académie. Alors, nous recevons donc, abandonné lâchement par Serge Beketch, le docteur Xavier Dor. Quoi, toujours plaisir à saluer, mais enfin quand même Serge, c'est quand même pas sympa. Il vous invite et hop, il vous abandonne.
Oui, c'est ça.
Mais en fait, c'est quand même, c'est pas bien ça. Hein. Non, vous ça. Lui direz, ça c'est pas bien du tout. Oui. Alors là, je viens de faire une bêtise, que j'ai mis mon casque avant de mettre les lunettes. Alors je ne vois plus. Voilà. Alors ensuite, nous recevons Augustin Dainville, qui est étudiant encore. Hein, Augustin,
oui, je finis mes études.
D'études de quoi?
L'école d'ingénieur, l'école centrale.
Ah oui, ça c'est sérieux, dites donc. Hein.
Oui.
Ah non, c'est sérieux, c'est du sérieux l'école centrale. Là, c'est pour construire du dur, là. C'est pas du... Alors, qui est président de Jeunesse Action Chrétienté, qui vient nous parler de la prochaine université d'été de la Dujac.
Dujac, oui,
hein, c'est ça, hein, Dujac. Hein. Avec comme question, puisque c'est une université pour les jeunes, la France est-elle morte?
Tout à fait.
Une question qui est pas très agréable, enfin bon, passons. Et puis alors, Michel Aulagnon, le rescapé d'il y a 15 jours, parce que le pauvre, c'est passé le dernier, je crois qu'il a dû parler 2 minutes et 30 secondes, peut-être.
Oui, à peu près.
À peu près 2 minutes, puis après ça, on vous a coupé le kiki. Alors, viens nous reparler un petit peu de... Alors, il est commissaire adjoint des scouts Godefroy de Bouillon et directeur de Kral...
De la revue Kral Info.
La Kral Info, hein, qui est la revue des scouts Godefroy de Bouillon. Alors, c'est des scouts plutôt catho...
catholique.
Catho, hein.
Catholique.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, notre camarade Yves-Marie Adeline. Oui.
Bonsoir.
Bonsoir, cher camarade. Donc, il vient nous parler de un peu de la reddition d'un traité qui était épuisé depuis quelques temps, mais qui est, Dieu merci, hérétique, qui s'appelle Le Pouvoir Légitime, six reddition, et puis qui vient nous faire un petit point aussi d'information sur l'Alliance Royale, association, mouvement politique, je ne sais pas comment il préside.
Formation politique.
Voilà, vous présidez à ces destinées extraordinaires. Mon cher docteur, alors que nous vaut le plaisir de votre visite ce soir? Parlez bien près du micro.
Oui, oui, alors tout à fait comme d'habitude, c'est-à-dire je vais annoncer nos manifestations qui sont assez proches, vous donner aussi un petit peu le poids de la situation très rapidement, en faisant le lien avec ce qui a été dit auparavant, parce que mon voisin parlait de... hier j'étais très intéressé, il parlait des sabbats, des rêves partis, et le sabbat c'est évidemment le diable qui mène la danse. Et
on parle des sabbats de sorcières,
ça ressemble beaucoup aux rêves partis finalement, et moi je trouve que c'est une très bonne définition des rêves partis, parce que je suis de plus en plus frappé par la présence de Satan dans notre époque. C'est curieux, je ne l'étais pas tellement il y a 5-6 ans, et plus ça va, plus je vieillis, plus je trouve qu'il est partout. Et peut-être je le vois même un peu là, peut-être là où il n'est pas, je ne sais pas. Mais il me semble de... Vous voyez, par exemple, à Ordener, enfin, peut-être certains l'ont déjà entendu, quand nous allions rue Ordener, on entendait ceux qui étaient en face de nous crier, et ça nous l'avons entendu plusieurs fois, nous sommes les fils de Satan, nous sommes les frères de Judas. On l'entendait dans Satan et son nom était prononcé dans la rue. Et enfin bon. Et la dernière fois, enfin, le 666, je dirais maintenant... Enfin, sur la voiture présidentielle de Mitran, qui conduisait sa dépouille, je ne sais pas, enfin, 666 sur la pyramide du Louvre, enfin, les symboles, c'est quand même, tout à l'heure on parlait des symboles, je pense que c'est on ne peut pas ignorer les symboles, en tout cas, en face, il n'ignore pas les symboles, et puis, enfin, tout ce décalogue qui est vu à l'envers, ça, je veux dire, il n'y a pas de preuve plus évidente du satanisme que cette inversion du décalogue, mais qui c'est très pour trait, c'est 180 degrés, n'est-ce pas? Enfin, voilà, alors... je crois qu'il est... C'est bien parce que j'en parle de plus en plus volontiers et je trouve de moins en moins de contradicteurs. D'ailleurs, j'en ai jamais trouvé. Tout le monde, finalement... j'enfonce une porte ouverte, au fond. Voilà, c'est même assez étonnant. Je suis moi-même étonné d'enfoncer une porte ouverte car il est évident que c'est Satan qui est au bout de la culture de mort. Et alors, si on va même un peu plus loin, je crois l'avoir déjà dit aussi, que la culture de mort n'est pas faite pour autre chose que pour la damnation. L'avortement est le meilleur instrument de la damnation, non pas de la pauvre femme qui est poussée à bout, n'est-ce pas, qui est victime plus qu'autre chose, mais c'est toute une société qui se précipite dans l'enfer, je dirais, tête baissée, parce que quelques-uns lui indiquent que c'est là la solution, qu'il faut tuer ses enfants, qu'il faut faire de l'eugénisme à mort, si on peut dire. Bref, enfin, on est en pleine folie. J'avais écrit une lettre à Chirac où je disais que tout ça c'était un mélange de Freud, d'Hitler et de Frankenstein. Je pense que ça, ce sont les suppôts de Satan. Mais je dirais, c'est tellement, ça sent tellement aux yeux que je n'insiste pas. Alors, je vais.
Alors, pour lutter contre cette culture de mort, rien ne vaut de mobiliser.
Dans l'avortement, je dirais, peut-être la fleur la plus empoisonnée. C'est la source même de la vie. Enfin, Dieu nous a dit multipliez-vous et nous en contraire. Eh bien, voilà. Alors, je sors d'un pèlerinage où, avec Augustin.
Je vous ai aperçu aussi, moi, à Chartres.
Vous étiez là.
Oui.
On s'est salué, c'est vrai. Parfaitement. Et alors, quelle merveille ce pèlerinage. Justement, le thème, c'était la défense de la vie. Et j'étais étonné, ébloui. Vraiment ébloui par la beauté, aussi bien des bannières, du défilé. Il y avait une heure et demie entre les gens qui étaient en tête et si vous étiez sur place, il fallait attendre une heure et demie pour voir passer le cortège. Alors, ils étaient par rang de 5 ou 6, enfin, au moins, je pense, des chapitres qui dépassaient 50, parfois 100, surtout à l'arrivée. Il y avait 116 chapitres adultes. 116 chapitres. Je l'ai su par les gens qui organisaient. Plus 1200 enfants. Plus tous ceux qui sont arrivés, qui ont rejoint. Enfin, c'est une foule très fervente. Moi, je suis étonné. C'est le père Argouache, on parlait de lui tout à l'heure. Le père Argouache, au départ, c'est quand même merveilleux, parlait des 7 péchés capitaux. Et d'ailleurs, en termes très simples. Et je me suis dit, quelle jeunesse qui est instruite de ça. Et il n'a pas peur de parler de tout ça. Je trouve que c'était à la fois élémentaire, d'une grande beauté. Enfin bon. Et puis, alors, les paysages. Tout le monde sait évidemment tous ces magnifiques blés, cette orge, et puis quelques coquelicots. Je me souviens de gens aussi qui disaient, lorsque on voit des coquelicots et des bleuets dans les champs de blé, ils disaient, les gens s'extasient, ah comme c'est beau, etc. Ils disaient non. Et là, je ne suis pas tout à fait de son avis. Ils disaient non, un beau champ de blé, c'est un champ où il n'y a que du blé. Eh bien, je dirais, quand il y a un petit peu de coquelicots,
C'est une fleur parasite.
C'est vrai. Mais je dirais,
c'est l'esthétique utilitariste de cette école.
Parce que quelques bleus et quelques coquelicots, voilà. Alors,
donnez-nous l'annonce de votre prochain rassemblement de prière.
Alors, j'ai pu en parler beaucoup au pèlerinage. On m'a beaucoup donné la parole. Nous avons beaucoup d'amis et c'est une joie, c'est une grâce, je ne sais pas comment dire. Je remercie très profondément l'abbé Pozzetto, tous ceux qui s'occupent de ça, tous les organisateurs, la sécurité, ceux qui nous servent la soupe. Enfin bon, moi je mets tout le monde à une seule réserve, c'est la sono.
Ah oui.
Je sais pas si vous... Alors la sono, effrayant. Là je dirais, alors c'était pas la rêve partie bien sûr, mais devant le, devant la façade, ça résonnait, et là je trouve que c'est pas raisonnable.
Ça, c'est fort.
Parce que les décibels, l'oreille interne, je dirais, en prend un coup terrible. Oui. C'est comme les coups de canon et tout ça. Ça je crois que là vraiment, c'est le...
Oui, mais les gens les années précédentes se plaignaient de pas entendre ce qui était dehors.
Ah, alors cette fois-ci ils ont entendu. Non, là d'ailleurs je me suis un peu écarté parce que ça durait très longtemps. C'était superbe, mais alors c'était trop.
Ça entendait jusqu'à maintenant, paraît-il. Alors c'est vous dire, c'était
oui, non, fort. Là les gens de la solo sont excellents, mais c'est trop.
Bon, mon cher docteur, soyons brefs.
J'en ai fini presque. La prochaine manifestation est à Dijon. Ah, vous me direz rien. Ici, nous n'avons pas jusqu'à Dijon.
Mais si, on est entendu par l'internet, par le DPS. Par l'internet,
parfaitement. Nous avons des Alors, ça marche de mieux en mieux à Dijon. Il y a un bruit qui court à Dijon. Il faudrait le vérifier. Que le nouveau maire socialiste de Dijon voudrait faire de l'hôpital du Bocage, qui se trouve dans sa ville, le plus grand centre d'avortement de France ou d'Europe. Je ne sais pas très bien ce qu'il a. Enfin, il faut vérifier le bruit qui court. Mais enfin, ce serait, Dijon est au centre de la France, en faire le fleuron de l'avortement. Je dirais, là vraiment, c'est le diable là qui donne tout son éclat. Enfin bon. Et donc, c'est samedi à 14h30 à l'hôpital du Bocage. Ensuite, à Rennes, c'est assez rare, à 18h à l'Hôtel Dieu, le mercredi 13 juin à Rennes. Le mercredi 13 juin à 18h. Et c'est pas un nocturne, mais enfin, parce que maintenant les jours sont longs. Mais enfin, voilà. Et ça sera, on mobilise après la sortie des lycées, des étudiants, tout ça. Nous aurons de l'opposition, je pense. Et puis le 16 juin, ce sera à Paris, à 14h. 14h, donc toujours au même endroit, je crois la 46e fois ou 45e fois que nous allons en avoir assez, que nous allons à Jeanne d'Arc, c'est-à-dire toujours pareil, rue du Château des Rentiers, rue Regnault, au coin, métro Porte d'Ivry.
Alors, quelle heure pour Paris?
Alors, à 14h. À 14h, très précis.
Le 16 juin.
Alors, j'en ai pas tout à fait fini avec le mois, parce que il y a aussi, donc, le 23 juin, à Aix-en-Provence et à Toulon, de nouveau des manifestations. À Aix-en-Provence, c'est polyclinique du Parc Rambaud à 15h30. J'ai pas bien compris pourquoi ils nous mettaient, nos amis d'Aix-en-Provence mettaient 15h30. En fait, c'est une heure aixoise, je ne sais pas. 15h30, je vois pas mal de siestes là-dedans, 15h30. Et bon, mais sur le, alors le Barou marche à fond, c'est parfait. Et puis à Toulon, ce sera un peu plus tôt, alors vous voyez, plus raisonnable, 15h. 15h, hôpital Brunet. Voilà, je crois que j'ai annoncé tout. Mais alors, je dirais une dernière chose. En ce qui nous concerne, c'est que là, j'avoue que, genre, grâce à Dieu, au mois de mai, nous avons été dans 10 villes différentes. Ça a commencé par Strasbourg le 5 mai, et ça finit par Bordeaux le mercredi 30 mai, le jour même où nous étions 60 d'ailleurs à Bordeaux, le jour même où à 4h de l'après-midi a été votée la loi de mort, n'est-ce pas ? Et je dirais de surmort, je ne sais pas comment l'appeler, ils en ont rajouté, n'est-ce pas, la loi Aubry, Jospin, Chirac peut-être bientôt, s'il va mettre son blanc seing. Enfin, une horreur.
Ça, on peut, il y a peu de doute, enfin.
Il y a peu de doute, le malheureux.
On peut continuer à prier, mais enfin, il y a peu de doute.
Oui, alors, il faut prier pour ces trois malheureux, Chirac, Jospin et Aubry. Et vous savez, je pense à cette phrase de Saint-Augustin, on en parlait à midi, cette phrase, je ne connais pas de phrase peut-être plus forte que celle-là, qui nous fait dire, mais c'est paradoxal, c'est complètement paradoxal, évidemment. Toi, heureuse loi Aubry, heureuse loi Chirac, heureuse loi Jospin, ceci en mémoire de ce Félix Poulpa de Saint-Augustin. Ouais. Comment, n'est-ce pas, tant de morts, tant de choses infernales.
C'est Saint Thomas ou Saint-Augustin?
Ah, Saint-Augustin.
Saint-Augustin. La Félix Poulpa.
Une phrase pareille, reprise aux ténèbres. C'est une des plus belles phrases, que je crois, écrites par un saint. Et ça ne peut être qu'un saint qui est... Comment a-t-on le culot de dire qu'après toute l'horreur que nous voyons, Satan déchaîné, eh bien, heureux Satan déchaîné, qui nous a donné un tel rédempteur. Oui.
Vous voulez donner un défaut de rédemption? Est-ce que vous pourriez me donner le téléphone de l'association SOS Tout Petit? Parce oui, que l'association SOS Tout Petit, on va donner l'adresse.
Le téléphone, bien sûr. Alors, c'est le 01 47 83 97 42. Et
redites-le encore une fois.
Il y en a deux, attention.
Donnez le premier.
Le 01 47 83 97 42.
Et alors, l'association, non, parce que si vous en donnez plusieurs, ça va être après, il faut en donner un seul. Il vaut mieux donner un deux fois que deux une fois.
Entendu.
Alors, SOS Tout Petit, boîte postale 243-08, 75-364, 75-364, Paris Sedex 08.
C'est parfait.
Merci, vous restez avec nous si vous voulez, parce qu'on va aborder les
tâches.
Ah bon, alors on vous abandonne. Alors à une prochaine fois, mon cher docteur, à une prochaine fois.
Merci, Loïc.
Alors merci vous, merci surtout pour de tout ce que vous faites, parce que franchement, la moindre des choses qu'on vous donne un peu la parole. Jacqueline, deux petits messages ou...
Oui, Daniel Aniche, merci de dire que nous sommes des catholiques et non des cathos. Et... j'ai un message pour Monsieur Adeline.
Bah attendez, c'est pas
on
encore.
On n'est pas encore. Non, on n'est pas encore là. Bon, la pyramide du Louvre n'a pas 666 carreaux. Si. Comment se fait-il que ce soit étranglé à chaque fois? Ça, je ne sais pas très
étranglé.
Bien.
Étranglé.
Oui, étranglé. Oui, c'est écrit étranglé.
Étranglé.
Et bah, puis si, l'euro, en fait, c'est le chiffre de la bête.
Ah ben non, bon, non, mais ça c'est la conversion de l'euro par rapport au franc. Mais par exemple, pour les Allemands, c'est 1 euro égale 2 Deutsche Mark. Oui. Donc là, il n'y a pas le signe de la bête, là, mais voilà. Mais nous, on a beaucoup de poussière. Alors, donnez-moi quelques petites... allez, vous en donnez deux maintenant. Alors, deux maintenant, comme ça, on va les alterner.
Le Centre d'études historiques, 72 rue de Flore, au Mans, 72 000, organise la 8e session de l'Université d'été de la légitimité au Mans, placée sous le haut patronage de Monseigneur le Prince Louis, Duc d'Anjou. Et c'est le vendredi 8 juillet 2001 à 10h, au lundi 9 juillet à 11h. Et c'est 1601-2001, quatrième centenaire de la naissance de Louis XIII et de l'infante Anne. Ils sont nés en même temps.
Oui, alors beaucoup d'universitaires vont parler de plein d'aspects, on ne peut pas tous les citer.
Oui,
mais par contre, que vous pourriez...
quand même Vincent Berteret qui a parlé tout à l'heure, l'abbé Chanu, Pierre Chaunu de l'Institut, oui. Jean Dubu, les abbés de Cournot, Laurentin... Hervé Pinoteau, Henriette Walter, Christian Boyer, Odile Bourda.
Je pense qu'au moins il y a quasiment une quinzaine de, personnes.
Il y en a beaucoup.
Alors vous nous donnez, redonnez l'adresse et le téléphone.
72 rue de Flore, 72 000 Le Mans, le numéro de téléphone le 02 43 81
37 67 02 43 81 37 67.
Voilà.
Lentement.
Vous appelez ou vous écrivez CEH 72 rue de Flore, 72 000 Le Mans, puis vous recevrez le bulletin d'inscription qui est très joliment fait avec tout le programme. Voilà. Encore une petite. Peut-être les conférences de Paul Bilaire. Tiens, les rencontres culturelles de Paul Bilaire. Enfin, la rencontre culturelle de Paul Bilaire de samedi prochain.
Rendez-vous samedi 9 juin. Église Saint-Joseph des Carmes, alors le thème c'est les massacres de septembre, à 15h15, 70 rue de Vaugirard, métro Saint-Sulpice ou Saint-Placide.
Voilà.
Donc 70 rue de Vaugirard à 15h15.
Samedi prochain, samedi 9 juin. Merci, on fera d'autres petites annonces après. Alors je passe tout de suite la parole à Augustin de Dainville qui va nous présenter la prochaine université d'été, puisque là c'est la période évidemment où il y a beaucoup d'activités l'été. Et ça veut dire que vraiment pour les jeunes et les catholiques en particulier, on a de quoi s'occuper. Hein. Par contre, dites-nous ce que c'est que Jeunesse Action Chrétienté, parce que ça fait pas de mal de faire une petite piqûre de rappel là-dessus.
Alors l'association Jeunesse Action Chrétienté, le JAC, et une association de jeunes catholiques qui a été fondée il y a un petit peu moins de 3 ans, avec un double objectif. Le premier étant d'inciter la jeunesse catholique à s'engager dans la société, dans le combat, je dirais, politique au sens large du terme, c'est-à-dire l'action dans la vie de la cité, le service du bien commun. Premier objectif. Et deuxième objectif, de faire l'unité entre les différentes branches de cette jeunesse catholique. Chez nous, nous combattons, comme je l'ai dit, dans un domaine très politique et social, au sens large du terme, et nous tenons à une grande avoir, et nous avons, je pense, une grande diversité dans l'origine des jeunes qui vient, que ce soit au niveau politique. Bon, je dirais que toutes les tendances qu'on peut voir à droite, et même dans on a pas mal de royalistes représentés, comme au niveau religieux. Donc un double objectif, inciter la jeunesse à s'engager, leur donner les moyens de le faire, et puis faire l'unité de la jeunesse catholique.
Donc vous avez des activités tout au long de l'année.
Tout à fait.
Et puis alors évidemment il y a un petit peu le point d'orgue de l'année universitaire ou scolaire.
L'aboutissement d'un an de formation et d'action, et puis la préparation de l'année d'après. Alors nous sommes nous sommes présents en région parisienne, mais également dans de nombreuses villes de province. On s'est beaucoup développé cette année en province. On doit être présent dans une dizaine de villes, alors dans l'Ouest, à Rennes, à Nantes, à Angers, où une équipe très dynamique, peut-être aussi dynamique qu'à Paris. Dans l'Est, à Besançon, à Dijon, et puis on en a également dans le Sud, du côté d'Aix-en-Provence, du côté de Bordeaux. Donc on se développe pas mal dans les villes de province.
Alors le thème de cette année, alors je rappelle, je donne tout de suite l'adresse, parce qu'en passant on oublie. Hein. Donc JAC, Jeunesse Action Chrétienté, c'est 9 rue du Vieux Colombier, Paris 6e. 9 rue du Vieux Colombier, Paris 6e. Je donne le téléphone également où nos auditeurs pourront se renseigner, notamment les plus jeunes.
Absolument.
C'est le 06 63 27 82 10. 06 63 27 82 10. Alors le thème de cette année, c'est la France est-elle morte? C'était pas exactement le thème, mais vous m'avez dit, pour faire simple, parce que voilà, c'est quoi exactement le thème?
Alors en fait, la France est-elle morte? Et nous répondons à ceux qui répondent par l'affirmative, cette phrase de Gustave Thibon: rien n'est plus marqué par la mort qu'un cœur de 20 ans qui ne rêve pas. Ce qui donne tout de suite l'orientation de l'université d'été. C'est vrai qu'on parlera beaucoup de la France. Mais ce sera non seulement un constat que la France n'est pas morte, puisque tant que la jeunesse, en particulier la jeunesse catholique, rêvera, elle pourra toujours reconstruire la France et faire qu'elle vive. Et deuxièmement, comment faire pour se donner les moyens, à la fois au niveau de la formation et des préparations d'action, pour que France continue. On parlait tout à l'heure du pèlerinage, de la chrétienté. Le thème est en effet assez proche. Alors, l'université d'été aura lieu du 1er au 5 août, dans la région de La Roche-sur-Yon. Donc, ce sera dans un lycée.
Mm-hmm.
Pardon?
C'est la Vendée, la Roche-sur-Yon.
Oui, en Vendée. Donc, c'est desservi de Paris en TGV. Et elle s'organisera, donc chaque journée aura un thème particulier, donc 4 journées avec un thème, qui seront, alors je n'ai pas encore l'ordre puisque le programme n'est pas encore tout à fait établi, l'Europe et particulièrement l'euro, Bien sûr, nous avons déjà commencé, nous préparons des participants à des actions visant à repousser, voire à empêcher la mise en place de l'euro. Ensuite, le combat pour la vie, le combat culturel, et puis une journée sur la situation de la droite en France.
Ah, c'est la journée des décombres, alors, non ? Oh. C'est la journée des ruines, là.
Alors, chaque journée s'organisera avec une conférence. On a voulu cette année limiter le nombre de conférences où l'assistance est quand même très passive pour faire des ateliers de travail où les jeunes, des ateliers de travail de préparation à l'action où les jeunes seront actifs. Alors nous aurons à la fois des ateliers de formation à l'expression orale et à la communication où les jeunes apprendront à participer à un débat télévisé, à répondre à des journalistes, mais également à faire un exposé, une conférence, à développer une idée.
Pas d'arts martiaux, pas uniquement le débat d'idées, quoi. Pas du tout faites pas un peu d'art martial, non?
Bon, pourquoi pas.
Hein, faut le dire.
Non, c'est pas prévu au programme, mais si.
Parce que des fois, avec des journalistes de la télévision, de différents. C'est vrai que certains journalistes de la télévision, c'est mieux de connaître le, je sais pas comment ça s'appelle, moi, la clé de, plutôt que de savoir parler, quoi, des fois. Non? Yves-Marguerite, vous n'êtes pas d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord, vous. Non, vous êtes un pacifique, heureux les pacifiques. Non?
Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Vous faites le pitre.
Donc, des ateliers d'expression orale et de communication.
Et votre tour va venir.
Également des ateliers de travail et de préparation concrète à l'action. Par exemple, nous aurons une après-midi consacrée à les préparations d'action que nous mènerons dès l'automne sur le sujet d'Halloween. Donc nous aurons des responsables d'associations qui s'occupent justement de combattre contre Halloween, qui viendront nous aider à préparer ça, et on préparera des actions concrètes. Et puis également, ce qui peut toujours servir, quoi, apprendre à faire un tract, une affiche, un communiqué de presse, et nous mènerons très certainement une action dont le thème n'est pas encore bien défini auprès des touristes sur les plages de Vendée. Nous aurons également des sorties culturelles, peut-être... une visite organisée auprès des lieux de guerre de Vendée, des lieux de mémoire, et puis peut-être au Puy du Fou également, très certainement d'ailleurs, le grand parcours du Puy du Fou. Donc tout ça fait un programme assez chargé, mais également des temps de détente, des temps de rencontres, des repas bien arrosés, des soirées, des veillées. Il y a également un...
Ça, c'est le côté sympathique de votre truc. Bon, moi, je percute. Il y a très peu de choses qui font percuter. Mais là, par exemple, les dîners, les déjeuners arrosés, ça m'intéresse.
Ah oui. Disons que c'est la troisième université qu'on organise. Et c'est vrai que les repas, notamment du soir, bien arrosés, qui se prolongent dans la soirée en chant, sont... Jean Wisset disait, il faut construire une amitié au service de la vérité de la France. C'est tout à fait ça. On peut pas passer notre temps à travailler.
Il faut aussi boire,
s'amuser, rigoler, puis construire cette amitié. On la construit pas forcément en écoutant des conférences.
Tous les pleureurs professionnels nous parlent de la faim dans le monde, mais la soif dans le monde. Qui s'en préoccupe de la soif dans le monde? C'est vrai, non? Oh, je vous pose pas de questions,
Adeline.
Non,
franchement.
Vous êtes un homme trop sérieux.
Il y aura également un petit peu de spiritualité aussi.
Ah oui, je pense quand même que vous avez...
Tout à fait, on aura un aumônier, la messe le matin, et puis on organisera une nuit d'adoration pour la France. Et puis également, qui sont prévus au programme, mais le programme n'est pas encore tout à fait prêt, il est encore très chargé, des libres débats avec des intervenants sur les thèmes seront créés et gérer une école catholique et la pensée de Gustave Thibon.
Très bien. Vous m'aviez dit aussi qu'il y aurait des lectures spirituelles de la Sainte Écriture, vous m'aviez dit ça, non?
Non.
Notamment le chapitre 20, verset toujours, je pense que vous n'aviez pas dit
non,
ça.
Non, non.
Bon, ben voilà, c'est quand même... fallait le faire, je l'ai fait. Pas mal, hein? Alors donc, nouvelle université d'été des jeunes du JAC. Les jeunes du JAC, c'est 9 rue du Vieux Colombier, Paris 6e. Le téléphone, c'est 06 63 27 82 10. 06 63 27 82 10. Du 1er au 15 août. Ça vaut dans les combien?
1er au 5 août.
1er au 5 août.
Alors, le prix est extrêmement modeste. Il est de 400 francs pour les 5 jours.
20 compris,
tout compris. Pour ceux qui désireraient venir uniquement le week-end, pour ceux qui travaillent ou ceux qui sont en stage, donc le week-end du 4-5 août, le prix est encore plus réduit de 150 francs pour le week-end. Donc ça vaut le coup pour 2 jours. Ou d'après une analyse que nous avions faite,
le christianisme, l'Afrique est en état de, encore de conversion, et le christianisme n'est pas encore rentré dans les institutions. En France, il ne l'est plus, la chrétienté est morte, tandis qu'en Afrique, la chrétienté est naissante. Le christianisme n'est pas encore rentré dans les institutions. Et en Afrique, nous avions voulu monter un mouvement de jeunesse qui soit non seulement un mouvement d'apostolat spirituel, mais également un mouvement d'apostolat en quelque sorte politique, c'est-à-dire le christianisme rentre dans la société. L'an dernier, nous avions un jeune Togolais qui était venu d'Afrique et qui a monté une association au Togo qui marche très bien. Et cette année, nous avons deux jeunes qui viendront d'Afrique, un de Guinée et un de Nigeria.
Très bien.
Alors, je ne sais pas encore si ils auront besoin de financement pour venir.
C'est vraisemblable.
C'est très vraisemblable.
Donc, on peut vous aider.
Donc, on peut éventuellement faire appel à des parrains pour parrainer la présence de jeunes.
Donc, envoyez vos dons à l'ordre du Jacques, chez Jacques, 9 rue du Vieux Colombier, Paris 6e.
Alors, encore deux
encore un petit mot, oui, allez-y.
Détails pratiques. Donc, je répète les dates, donc du mercredi 1er au dimanche 5 août, près de La Roche-sur-Yon, en Vendée. Et l'université d'été est ouverte à peu près, parce qu'il faut bien mettre des frontières, on a dit en gros 15-35 ans, mais si au-delà de 35 ans, sans encore jeune, on peut venir.
C'est exclu, quoi.
Et si avant 15 ans, on a la maturité pour suivre le programme, tout le monde est
voilà, bienvenu. Donc on écrit Jacques Neufre, rue du Vieux Colombier, Paris 6e, si on veut le programme, puis vous l'envoyez.
Voilà, mon téléphone au 06 63 27 82 10.
Bravo. Bah, ça, est bien. Hein. Bravo. Merci, Augustin.
Merci,
très aimable à vous. Alors, si vous voulez rester avec nous, restez un petit peu avec nous. Ma petite Jacqueline, oui, il y a des messages.
Oui. Un auditeur, inciter les jeunes catholiques et les vieux à rêver me paraît d'un catholicisme assez douteux. N'en déplaise au douteux Gustave Thibon, admirateur fanatique du gnostique Victor Hugo. Un catholique ne rêve pas, il est réaliste.
Oui.
Voilà.
Bon, bah oui, c'est une opinion, hein.
On nous reparle sur des messages du chiffre 666, ça vous intéresse? Alors, un auditeur, lors d'une émission de Serge de Beketch, Marc Dem avait déterminé que Gorbatchev correspondait au 666, et Monsieur Amish avait dit à cette époque qu'il fallait beaucoup prier. L'intervenant actuel confirme en quelque sorte qu'il faut de plus en plus prier. Voilà. Et alors, on nous dit, un auditeur, c'est à cause du renforcement au niveau de la porte d'entrée qu'il y a bien 666 carreaux sur la pyramide. L'argument, ce n'est pas divisible par 4, donc pas valable.
Voilà. J'ai pas compris la fin, mais enfin bon, peu importe. Alors. Bon, alors, une annonce encore d'une manifestation.
Si j'ai cru comprendre.
Voilà. Oui, c'est Rudit, alors dit-il.
Ceux qui répondent à cela, qu'il ne peut pas y avoir 666 carreaux parce qu'il y a 4 faces.
Ah oui, 4 faces, oui, voilà. C'est pas juste pour... Non, mais parce qu'il y a des choses qui sont en surplomb, et donc il y a aussi des vitres.
Ouais, voilà, donc cet argument,
Voilà. Donc, alors, donnez-nous une petite annonce.
Oui, je vous donne la 9e université d'été légitimiste en Anjou.
Alors, encore une autre.
Au château de Lauberdière, c'est dans le Maine-et-Loire, en hommage au prince Louis, duc d'Anjou.
On parle beaucoup de Louis d'Anjou ce soir.
Du 25 au 29
juillet. On va encore croire que je suis sectaire.
Du 25 au 29 juillet. Donc, il y aura Yves-Marie Aline, les conférenciers, Yves-Marie Aline, Alexis Arrête, amiral Michel Berger.
Il est partout, Yves-Marie Aline, parce qu'il est aussi, Haddad, il est aussi au Mans.
Alain Héry.
Moi, je vais là où on m'invite.
Oui. Vous n'avez pas invité
Adeline. J'ai été l'année dernière.
Ils ont eu le plaisir d'avoir l'an dernier.
J'ai été l'année dernière, Jacques.
Nicolas Tandler, Olivier Tournafond, Monsieur Philippe Pichot-Bravard, et j'en passe parce que je ne peux pas tout lire. Le vendredi 27 juillet, il y aura une visite à l'abbaye du Royal de Fontevraud.
Très bien.
Et puis, pour plus ample renseignement, alors je vous donne le numéro de téléphone, donc le château de Lauberdière, 4950 à Beaucé, B-O-C-E, téléphone 02-41. 82 72 03 02 41 82 72 03.
Parfait.
Encore une petite.
Encore une petite, oui.
Alors, c'est la conférence de monsieur l'abbé François Pozzetto.
Qui est l'aumônier du pèlerinage
de Notre-Dame de chrétienté. Le mercredi 13 juin 2001 à 20h30. Mercredi 13 juin à 20h30. C'est au centre Georges Bernanos,
4 rue du Havre, 7509 Paris. Et le thème, s'engager à la lumière de la lettre apostolique, et puis au début du nouveau millénaire.
Apostolique au début du troisième millénaire, c'est ça ?
Eh bien oui, au début du nouveau millénaire, oui. Du 6 janvier 2001.
C'est ça,
oui. Oui. Voilà, alors c'est 4 rue du Havre, au centre Georges Bernanos, le 13 juin 2001 à 20h30.
Très bien. Parfait. Alors, je passe la parole maintenant à Michel Lenagnon, qui avait été comme privé d'expression orale il y a 15 jours, hélas, beaucoup de monde, et puis on ne vous avait pas beaucoup entendu. Alors, redites-nous un peu ce que c'est que ces scouts Godefroy de Bouillon, là, quand vous êtes le commissaire adjoint.
Le commissaire adjoint, oui, j'ai fondé cette association en 82, et donc depuis environ la valeur de 2 années, j'ai passé le commandement à un capitaine de vaisseau universitaire.
Qu'on appelle mon commandant.
Voilà, chef U.
En principe, non, c'est pas ça.
Je donne d'ailleurs la façon.
Non, un capitaine de vaisseau. Non, mais un capitaine de vaisseau, on doit l'appeler mon commandant. Oui, c'est
exactement,
ça.
Capitaine de vaisseau. Alors.
Non, mais moi, je suis à la radio pour m'instruire.
Donc,
voilà, je lieutenant son capitaine et voilà. Les capitaines sont commandants.
Je profite de donner son numéro de téléphone. Et son numéro de site internet, son adresse internet, c'est le 02 33 04 16 23. Je répète, 02 33 04 16 23. Et le numéro de courriel, l'adresse courriel, c'est scout.gdb@free.fr.
Là, ça c'est compliqué.
Voilà.
Il vaut mieux le téléphone.
Voilà. Alors, 02 33 04 16 23. Alors, quel scoutisme pratiquons-nous ? Quelle est la vision actuelle, le regard sur le scoutisme ? Parce que le scoutisme traverse une crise, c'est indéniable. Il y a eu un séisme en 98. Pourquoi le scoutisme fait-il objet d'attaques si violentes de la part de ses adversaires? Il fait l'objet d'attaques parce qu'il constitue de nos jours un moyen d'éducation fabuleux pour les enfants. C'est un gosse qui a passé 10 ans dans les unités scouts bien tenues, avec un encadrement fiable, s'en souvient toute sa vie. Moi, je peux vous dire que dès l'âge de 7 ans, j'étais à la meute, et je suis aujourd'hui, je suis encore là, hein, et debout, jusqu'à la mort. On est scout tout le temps, et on se fait enterrer en uniforme, en principe. Moi, j'ai connu des chefs scouts, qui sont décédés, ils exigeaient dans leur dernière volonté d'être enterrés en uniforme scout. Ça vous marque pour la vie. Aujourd'hui, le scoutisme est-il perdu ? Aujourd'hui, le scoutisme est-il mort ? Je dirais non. Je ne suis pas de ceux du cœur des pleureuses. Je ne fais pas partie, je n'irai pas pleurer devant le mur des lamentations. Je n'irai pas dire « c'est foutu ». D'ailleurs aussi bien politiquement, sociologiquement, etc. Je pense qu'en tant que catholique, il y a des vertus, et des vertus théologales. Il y a d'abord il y a la foi, il y a d'abord l'espérance et la charité. Ces vertus scoutes se traduisent d'ailleurs dans la loi scout. On les retrouve. Le décalogue, les 10 commandements de Dieu sont induits également dans la loi scout. Ça, c'est pour la partie formation spirituelle. On prend en compte, en quelque sorte, l'enfant, et on essaye de développer sa personnalité.
Mais ça, moi, j'entends bien ce que vous dites sur le scoutisme, mais le problème, c'est qu'est-ce qui est votre spécificité ?
Alors,
c'est
notre spécificité.
Pourquoi est-ce que vous êtes les scouts de Godefroy-Bouillon, pas les scouts de France, ou les scouts d'Europe, ou les Europa scouts, ou pourquoi ? C'est ça qui m'intéresse.
Une volonté missionnaire et conquérante. Missionnaire et conquérante, parce que Godefroy-Bouillon a fait une croisade. Et nous voulons garder cet esprit de croisade. Et là, je m'adresse. je lance un appel actuellement. Nous avons du mal à créer des unités scouts. Partout, on nous demande. J'ai été frappé par les JMJ. J'ai été frappé par la foule de jeunes sur les deux pèlerinages, que ce soit Chartres-Paris ou Paris-Chartres. J'avais dans les deux pèlerinages des amis, j'ai pu voir le départ à Notre-Dame du pèlerinage Paris-Chartres partant de Notre-Dame, le nombre de jeunes qu'il y avait dans la tranche d'âge des 13, des 12, des 12-17 ans. Fabuleux. Dans l'autre pèlerinage, pareil, ça venait de tous les côtés. Cette année, on dirait que c'est pratiquement un reflux des JMJ vers les pélés. Ils voulaient marcher. Ils étaient là en raid, hein, ils partaient en raid avec leur chapelet. Ils étaient sur la route de Chartres ou sur la route du Sacré-Cœur, hein, comme les chevaliers des temps anciens. Parce que le scoutisme est un ordre de chevalerie. Et bien je dis aux jeunes, je leur dis, t'as 12 ans, t'as 13 ans, t'as 14 ans, t'as 15 ans, t'as 16 ans, t'as 17 ans, t'es pas une nouille, t'es pas une lavette, t'es un gars, t'es debout. Alors qu'est-ce que tu fais, mon gars? Ben tu prends ton sac, tu prends ta boussole, et tu prends ton chapelet, et puis t'as pas besoin d'entendre tout ce qu'on raconte sur toi, ni les jeunes, ils sont cons. Non, ils sont pas cons. Ils tiennent encore debout, il y en a beaucoup dans ce pays.
Mais alors,
par contre, qu'est-ce qui te manque? C'est au-dessus, c'est la génération. Et là, je m'adresse à une autre catégorie de jeunes un peu plus âgés. Et je leur dis, et c'est la loi de charité. C'est aux 18-25 ans que je m'adresse. Ils sont pas encore mariés. Qu'est-ce que tu fais de ta vie tous les jours, toutes les semaines pour les autres? Qu'est-ce que tu fais pour les aider? Est-ce que tu te contentes d'aller papoter dans des petites réunions où on fume, où on boit des petits coups, on boit le thé, etc.? Bon, où il y a peut-être des fois des propos et des bavardages et pas voir d'âge inutile. Ou est-ce que tu fais quelque chose pour tes frères? Que ce soit le scoutisme ou autre chose d'ailleurs. Quels sont les actes positifs que toi, à 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tu poses tous les jours dans ta vie? Est-ce que le soir, tu peux dire aujourd'hui, qu'est-ce que le bilan de ma journée, qu'est-ce que j'ai fait pour autrui? Est-ce que j'ai respecté la loi de charité? Est-ce que j'ai bossé? Je vais donner deux anecdotes. Et elles sont riches en enseignements.
Je rappelle aux auditeurs que nous sommes sur Radio Courtoisie, parce qu'il faut de temps en temps nous identifier.
Et alors, ces deux anecdotes, la première, c'est un gosse. Il avait à peu près 12 ou 13 ans. Ils étaient deux. J'habite pourtant pas dans une cité, hein. Je suis dans un quartier résidentiel, pavillonnaire, etc. Donc c'était pas des loulous, hein. C'était un gosse du quartier. C'était deux. Il y en a un qui a à peu près 12 ans, l'autre qui a à peu près 13 ans. Et c'était un dimanche après-midi. Et il faisait beau. Et que faisaient ces gamins?
S'ennuyer.
Ils avaient une boîte de Coca-Cola vide en métallique. Vous savez, ces boîtes à la tirette, là, au bois. Et leur jeu consistait à s'envoyer la boîte, comme ça. Et pendant une heure, ils s'envoyaient la boîte. De ma fenêtre, je voyais ce malaise. Ah, c'était plus fort que moi. J'ai envie de descendre, d'aller leur parler. Et j'ai posé deux, trois questions à ces gamins. J'ai dit, mais où aller? On ne nous propose rien. Et c'est tout. On n'a rien à leur proposer. Personne ne vient les voir. Et un autre exemple, ça se passait dans province, dans la Nièvre. Dans une propriété que je connais, dont je tairai le nom. Et il y avait des gamins, des pêcheurs à la ligne, ils avaient peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, toute une équipe. Et puis passe, à ce moment-là, avec un jeune qui leur parle. Qui leur parle du scoutisme. Et leur donne envie de faire du scoutisme. Il fallait voir les yeux des gosses. Transformés. En 15 minutes, le lendemain, ces gamins étaient à la messe. Le surlendemain, ils venaient équipés de briques et de brocs, etc. Bon, mais ils venaient en activité. On leur a monté en deux coulées gros un jeu de piste, etc. Ils étaient prêts à partir. Puis depuis, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Beaucoup de gamins sont désœuvré, inoccupé, l'oisiveté, ben c'est la plus mauvaise des choses. Il faut occuper les gosses. Je me suis occupé d'un centre de... J'ai fait de la prévention pour les toxicos, notamment, pas de la prévention, de la post-cure. Je me souviens de mon passage dans ce centre de post-cure, on les occupait constamment. C'est pas en les remettant devant leurs problèmes, en leur disant pourquoi tu t'es drogué, etc., qu'on va régler les problèmes. Non, c'est dans l'action, dans l'activité. Et puis, ça resserre les liens. Une équipe qui est dans les difficultés, dans les raids. Hein. Et moi, je me souviens d'une patrouille où ils étaient montés au Puy-Marie. Ils en ont bavé comme des troncs. Hein. Ils ont transpiré comme des... comme pas eux. Mais ils étaient fiers d'être arrivés en haut. Bon, ils ont eu un petit pépin en descendant. D'accord, ok, Madame Buffet l'entendrait maintenant, elle en frémirait. Mais bon, ils sont là avec ses trans. Hein. Et nous respectons la réglementation, les règles élémentaires de sécurité. Parents, vous pouvez être tranquilles, là, sur la sécurité, on est strict. Mais de toute façon, on ne veut pas non plus, comme on dit, lâcher nos godasses. On n'a pas envie de poser le sac. Les gosses qui viennent en vous, qui vont nous rejoindre, n'ont pas envie qu'on aille les border dans leur lit soir. C'est pas drôle. Bon. Alors, ça, c'est un point. Et alors, je lance un appel et je donne un numéro de téléphone parce qu'actuellement, il y a un besoin urgent sur la paroisse Saint-Martin-les-Gaules d'encadrement pour la rentrée parce que le curé me l'a demandé. Il m'a dit j'ai besoin de cheftaine ou de louvetier ou de cheftaine. J'ai besoin d'un chef de troupe.
Parce qu'il y a plein de monde pour les très jeunes.
Il y a beaucoup, ouais, les deux catégories, aussi bien scout que louveteau. Et c'est urgent. Donc, je donne un téléphone avec un fax. On peut faxer ou téléphoner, c'est le 01 49 35 03 39. Je répète, 01 49 35 03 39. Et là, n'hésitez pas, hein, tu as 18, 19, 20, 21 ans. Tu n'as pas de pratique, ça fait rien. On t'apprendra. Si tu as la pratique, je préférerais quand même une cheftaine chevronnée pour les louveteaux. Hein? Bon, s'il y a des BAFA qui viennent. Bon. Et la deuxième partie de mes responsabilités, hein, c'est l'instruction. C'est de donner aux chefs scouts des éléments pour l'éducation de leurs enfants. Et par quels moyens? Par les camps écoles, certes, mais aussi par les revues. Alors, nous avons d'abord une revue technique qui s'appelle Staff Magazine, que vous pouvez procurer en téléphonant HF Hugues au 02 33 04 16 23
6. Doucement.
02 oui. 33 oui. 04 oui. 16 23.
D'accord.
Alors vous l'appelez et vous lui demandez et puis vous la fera parvenir. Là aussi, ceux qui sont tentés par de l'encadrement, que ce soit à Paris en province, vous appelez chef Hugues. Sauf le cas de Noisy-le-Grand, où vous appelez le numéro que je vous ai indiqué, le 01 49 35 03 39, c'est pour Noisy-le-Grand. Tout le reste, vous appelez chef Hugues. Maintenant, je vais parler de la revue Kral Info.
Alors, brièvement,
parce que même le temps Kral Info, voilà. C'est une, nous avons bon, une revue spécialisée pour les chefs, les routiers, les parents, tous les cadres des mouvements de jeunesse. C'est une revue d'éducation, de culture. Nous avons sorti un numéro spécial sur les croisades, notamment, pour marquer le 9e centenaire de la prise de Jérusalem par notre patron Godefroy de Bouillon. Hein. Et ce numéro spécial croisade est en vente au prix de 43 francs, frais de port inclus. Il vous suffit d'écrire à l'adresse suivante. Scout Godefroy de Bouillon, 3 rue Carpeau. 75 018 Paris, et d'envoyer un chèque de 43 francs, et vous recevrez un numéro magnifique. Nous avons d'autres projets de numéros, il y en a un qui est prêt, qui est en train de se faire, une équipe qui est en train de piloter ça, sur la drogue. Le titre de ce bouquin, qui est plus important, je pense 70 à 100 pages, c'est « Drogue-toi et tais-toi ». Hein, comprenez, on veut nous mettre les gosses dans la petite boîte, hein, et pour le meilleur moyen pour dominer une nation, c'est de détruire sa jeunesse. Eh bien, notre rôle, c'est de la construire. Eh bien, je vais dire et lire un texte, et je laisserai les jeunes méditer ce texte qui m'entendent, et surtout les 18-20 ans. Il est du Père Sevin. Je vais vous le lire lentement pour que vous le compreniez. Seigneur et chef Jésus-Christ, qui, malgré ma faiblesse, m'avait choisi pour chef et gardien de mes frères scouts, faites que ma parole éclaire leur marche au sentier de votre loi. Que je sache montrer vos traces divines dans la nature que vous avez créée, leur enseigner ce que je dois et les conduire d'étape en étape vers vous, ô mon Dieu, dans le camp du repos et de la joie, où vous avez dressé votre tente et la nôtre pour l'éternité, ainsi soit-il. Et il y a, je sais, dans ce pays, de beaucoup de chefs qui sont partis, qui ont quitté leur mouvement, qui ont démissionné à la suite des campagnes ignobles de presse contre le scoutisme. Ils ont posé le sac parce que fatigués, parce que déchirés, parce que meurtris, parce que la direction de leurs associations, quelquefois, avait baissé les bras, avait capitulé devant l'ennemi, et s'était couché même devant les exigences d'une certaine dame. Eh bien non, nous ne nous coucherons pas, nous nous resterons debout, et les jeunes se battront, car ils sont des croisés, hein. Et c'est ce que disait d'ailleurs Ide de Lorraine à son fils Godefroy de Bouillon, quand elle lui disait, au sujet de la générosité, elle répondait que, quelle est sa devise, plus j'en donne, plus il m'en reste. Alors apprenez donc à donner sans compter et à combattre sans souci des blessures. Merci à tous de téléphoner au 01 49 35 03 39 ou d'écrire à Scout Godefroy de Bouillon, 3 rue Carpeau, 75 018 Paris. Vous recevrez pour un chèque de 43 francs le magnifique numéro de Crâne Info en couleur sur les croisades.
Merci Michel Lelagnon. Moi ça c'est bon. Tadam, fermez le banc. Très bien. Alors on se tourne maintenant vers les auditeurs parce qu'ils ont beaucoup téléphoné pendant ce temps-là.
Oui. Une auditrice, beaucoup d'émissions comme celle-là, Radio Courtoisie, nous remontrait le moral. Vive Godefroy de Bouillon.
Oui, oui, oui.
Bon, j'ai un autre message qui nous dit que les gosses qui passent 10 ans chez Godefroy de Bouillon, et c'est un bon client pour, ce sont de bons clients pour les psychanalystes. Vous voyez?
Oui, il y a de tout, hein.
Oui, oui, il y a de tout. Oui.
Oui, alors allez-y,
tu la foi, l'espérance et la charité, ce ne sont pas seulement des vertus scouts, elles sont avant tout des vertus chrétiennes.
C'est ce qu'a dit Michel Lelagnon.
Oui, pour le 666, on en termine avec la société Saint-Gobain qui l'a précisé elle-même. Ma femme travaille à la société qui a construit la pyramide, elle est sûre du nombre. Voilà, et on doit dire commandant et non pas mon commandant dans la marée.
Ah oui, oui, on ne dit pas mon commandant, on dit commandant, oui, oui, parce que...
Alors, je peux peut-être annoncer...
Alors, annoncez rapidement ça, parce qu'après...
Alors, le Centre de Recherche Historique Internationale, les Gardiens de la Civilisation Perse, le Mémorial des Rois, ICAST, présente Cyrus Ariamanesh, qui fait une conférence sur la renaissance de la Perse royale de Zarathoustra, et l'histoire cachée de la Renaissance face à l'islam, 1400 ans de lutte secrète, le samedi 16 juin 2001, de 16h à 19h à Paris, renseignements et inscriptions au colloque. Alors je vous donne le téléphone, 01 42 63 98 84, je répète, 01 42 63 98 44. Oh non. 84, décidément.
Alors, redites-le-nous lentement.
01 42 63 98 84. Excusez-moi.
Merci, Jacqueline. Alors, mais moi, je fais une petite annonce.
Oui.
Comme ça, ça va me permettre de passer au sujet suivant. C'est en fait au dernier invité de cette soirée. Puisque l'Alliance Royale invite tous les auditeurs qui le souhaiteraient à se rassembler le samedi 9 juin. Prochain, à 20h30, pour une grande réunion publique qui sera présidée par notre ami Pierre Bernard, qui est le maire de Montfermeil, président de l'association France Debout, donc très connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Et cette réunion de l'Alliance Royale se tiendra avec notre ami Marie-Adeline, ici présent, qui est le président de l'Alliance Royale. Alors sur le thème, quel est le thème exactement que vous allez traiter?
Je viens présenter mon projet.
Vous venez de présenter le projet de l'Alliance Royale.
Donc, d'une liste européenne en 2004.
Voilà.
Liste royaliste. Oui.
Donc le rendez-vous, c'est Salle des Fêtes de Montfermeil, 40 rue des Marguerites, et le parking est tout à fait à proximité. Donc je redis, samedi 9 juin, 20h30, présidé par Pierre Bernard, et Marie-Adeline viendra vous présenter le
Pierre Bernard à la gentillesse de l'Alliance Royale.
Et demain, le jeudi 7 juin, Yves-Marie Adeline fera aussi une conférence au 153 au Panorama, 153 rue Montmartre à Paris. Hein, au Panorama, 153 rue Montmartre à Paris, alors, le 7 juin.
Le 7 juin, c'est alors le jeudi 7
juin. À 20h.
Ouais. À 20h, donc alors 7 juin, demain pour ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, nos amis auditeurs qui nous écoutent ce soir, et puis eh bien aujourd'hui pour ceux de nos auditeurs qui nous écouteront en rediffusion.
Pour le 9, on pourra raccompagner certaines personnes en voiture.
D'accord, parce que Montfermeil est un petit peu
loin. Oui, c'est un petit peu loin, d'autres personnes seront en fait raccompagnées en voiture.
Très bien. Eh bien, Yves-Marie-Adeline, alors parlez-nous de cette Alliance Royale, de votre projet, de ce que vous faites, de la façon dont c'est en train de se développer. Vous êtes très actif, puisqu'on vous entend souvent sur Radio Courtoisie, mais enfin, on vous entend aussi partout en France. Vous allez faire des conférences aux quatre coins de l'Hexagone, comme dirait l'autre. Alors racontez-nous, quel est le projet, c'est quoi? C'est quoi l'Alliance Royale?
L'Alliance Royale, c'est une formation politique royaliste, unitaire, qui se donne pour objectif de faire ressurgir dans le débat politique français ordinaire la question des institutions monarchiques. Et pour y parvenir, nous choisissons le meilleur moyen, qui est l'élection européenne, parce que tout le monde sait pourquoi. C'est un système, c'est un scrutin proportionnel, ça a été le moyen pour un tas de formations marginales de surgir dans la vie politique. Je pense aux écolos, aux FN, aux
chasseurs,
RPF, aux pêcheurs, à Arlette, enfin tous ceux qui avaient quelque chose, qui avaient envie de dire quelque chose, ont pu surgir de cette manière-là. Et donc notre objectif, c'est au moins c'est de franchir la barre des 5%, la barre fatidique, de telle sorte qu'avec cela, nous aurons un commencement de force politique qui se donnera pour objectif de faire connaître à nouveau à nos compatriotes la question des institutions monarchiques et d'expliquer à nos compatriotes ce que pourrait leur apporter une monarchie française au XXIe siècle. Il va de soi qu'il ne s'agit pas d'une monarchie droit feignant, comme on en voit un peu autour de nous, mais d'une monarchie profondément française, donc animée d'un idéal plus authentique. Donc c'est un gros travail. Je comprends bien que ça heurte beaucoup d'habitudes, parce que jusqu'à présent, et je n'en fais grief à personne d'ailleurs, je l'ai fait moi-même, jusqu'à présent, les royalistes se réunissaient dans des associations diverses et variées et exaltaient la mémoire d'un tel et d'un tel. Et j'ai appris là tout à l'heure, lorsque Serge de Beketch était ici, qu'une nouvelle association se fondait. Bon, c'est très bien, tout ça, c'est très bien. Mais l'Alliance, c'est une autre vocation. C'est une autre vocation qui consiste à nous rendre visibles dans le débat politique français, parce que nous sommes invisibles. Et quand on dit que le jour où des circonstances exceptionnelles viendront en France, alors nos compatriotes pourront se retourner vers la solution monarchique, ce n'est pas vrai.
S'ils n'en ont pas entendu parler.
S'ils n'en ont jamais entendu parler, ils se tourneront vers le chaos, ils se tourneront vers Zebda à Toulouse, ils se tourneront vers ça. Et donc nous, il faut que nous sortions la lumière de sous le boisseau. Alors nous pouvons le faire, alors que nous ne pouvions pas le faire avant, parce que le paysage français, enfin le paysage politique français, s'est considérablement évolué, là, notamment à droite où nous voyons un champ de ruines qui est destiné à rester ce qu'il est, un champ de ruines. Hein, je sais pas, ce sera un motif de méditation pour les Jacques, je suppose, cet été. Et donc dans ce champ de ruines où il n'y a plus aucune force capable de susciter des enthousiasmes, des adhésions, de susciter beaucoup d'abnégation, etc., les royalistes peuvent enfin agir en leur nom propre, plutôt que d'être indéfiniment le tirailleur sénégalais des troupes républicaines, ce qu'ils ont été dans différentes circonstances, qu'on peut d'ailleurs comprendre pourquoi, je parle des troupes républicaines de droite, les royalistes, cette fois-ci, pourraient faire enfin entendre leur voix. Donc, que les royalistes sortent de leur naphtaline à l'occasion de cette marche vers l'année 2004 et les élections européennes. Alors, en ce moment, je suis en train de faire le tour, effectivement, des popotes. Je vais un peu partout en France pour présenter ce projet, essayer de susciter l'enthousiasme dans les provinces, de dire, écoutez, organisez-vous, installez des délégations départementales de l'Alliance Royale chez vous, et puis allez à la rencontre de vos compatriotes, etc. Donc, on en est là, pour l'instant.
Une question bête à poser, mais vous comprendrez que c'est la réponse qui va être intelligente, mais est-ce qu'il faut être, parce qu'on l'a déjà souvent posé, il faut être noble pour faire partie de l'Alliance Royale?
Pas du tout. Non. Vous savez, la monarchie n'a pas tellement de rapport avec ça. On peut pas confondre un contexte social qui est souvent lié d'ailleurs à une époque et un principe politique. Je veux dire, les Grecs se posaient pas, Hérodote qui était royaliste se posait pas cette question-là. Ceci étant dit, ça ne m'empêche pas par ailleurs de penser qu'il est dommage qu'aujourd'hui l'élite ne se distingue que par l'argent, que par la fortune. C'est parce que vous êtes riche que vous êtes distingué. Ça, c'est bien dommage. Et donc, il y a c'est secondaire par rapport à l'exposé de nos principes, qui sont avant tout des principes politiques qui cherchent à être salutaires pour le pays. Mais ceci étant dit, c'est vrai que un idéal qui consiste à vouloir distinguer les hommes, non pas parce qu'ils ont de l'argent, plus d'argent que les autres, mais parce qu'ils développent des vertus autres, c'est quand même plus agréable. Le service public, le service de l'État, le service du bien commun, vous distingue des autres, ça me paraît beaucoup plus beau que simplement d'avoir de la fortune, de l'argent, et des belles voitures, et des belles maisons, et se distinguer comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose à ne pas perdre de vue. Cependant, le royalisme doit commencer par le commencement. Je veux dire, c'est un ensemble de principes politiques salutaires et qui aujourd'hui s'imposent, d'autant plus que j'apprends que le sujet de l'université d'été déjà, c'est de savoir si la France va disparaître. Vous connaissez peut-être mon point de vue devant le combat souverainisme. Il n'y a pas de souveraineté possible sans souverain en France. Et donc aujourd'hui où nous sommes à une époque qu'il faut prendre comme telle, il faut vivre avec son temps, nous sommes à une époque où effectivement les échanges s'internationalisent, on est dans une période qui est comme ça, plutôt que de se replier sur des positions intenables, crispées, où nos frontières seraient mises à vif contre d'autres frontières, quoi de mieux que l'incarnation du pays, l'incarnation de la France, l'incarnation de sa souveraineté, c'est-à-dire son souverain, pour garantir précisément son indépendance, sa souveraineté et sa continuité. Ça me paraît beaucoup plus réaliste que d'essayer des combats d'arrière-garde sans se donner du tout les moyens de faire triompher la souveraineté française, en s'embarquant dans une voie sans issue qui est celle qu'empruntent beaucoup de souverainistes aujourd'hui.
Alors je vois là pour la réunion du samedi 9 juin à 20h30 à Montfermeil, qui sera présidée par Pierre Bernard. Pierre Bernard est un homme politique connu, localement et un peu nationalement, grâce à Radio Courtoisie, enfin tous les combats qu'il mène. Est-ce à dire qu'il se convertit au royalisme?
Écoutez, je ne veux pas forcer la main à Pierre Bernard qui est d'abord un peu besoin de moi, et puis il m'a fait un jour le plaisir et l'honneur de venir à une réunion publique que j'animais dans son département, Seine-Saint-Denis. Et Pierre Bernard est un homme qui se méfie des partis politiques. C'est une des grandes figures des diverses droites. Bon. Et mon projet, visiblement, lui a plu. Je crois qu'il en a parlé sur Radio Courtoisie. Et donc, voilà, il me reçoit. Je ne sais pas ce qu'il dira. Ça n'est pas une réunion complotée à l'avance. Je sais que Pierre Bernard m'invite à m'exprimer devant un parterre de gens qu'il aura lui-même prévenu, etc. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il va dire. Ceci étant dit, je tiens en grande estime Pierre Bernard, c'est évident. C'est un personnage extrêmement intéressant.
Alors, votre alliance royale, elle se trouve où exactement ?
Elle est, on peut écrire au 50 avenue de Saxe, dans le 15e, pour prendre des renseignements. Et puis alors, on peut aussi téléphoner. Alors là, oui, j'avais même pas prévu votre question, mais je dois avoir quand même ça sous les yeux.
Il faut toujours prévoir quand on demande des appels de téléphone.
Oui, c'est idiot. Alors on peut, attendez, je vais vous dire ça. On peut téléphoner au 01 30 24 60 47.
Mais redites-le-nous très lentement.
Alors 01 30 24 60 47. Puis alors, il y a de plus en plus de personnes qui assurent la permanence téléphonique. Et donc, c'est vrai qu'au début, il y avait encore des plages creuses avec un répondeur. Bon, maintenant, ça commence à se remplir.
Bon, on peut.
Il y a de plus en plus de bénévoles qui répondent.
Et on peut adhérer face à une association.
Alors, on peut adhérer. C'est une association.
Je pense que vous avez besoin d'un peu du nerf de la guerre, enfin.
Oui, ben, naturellement, c'est normal. On ne peut rien faire sans cela. Il y a aussi un site internet qui est alliance-royale.com. Alliance-royale, bien sûr, .com. Parce que la moindre faute d'orthographe sur internet est fatal. Et sur ce site alliance-royale.com, vous pouvez télécharger un bulletin d'adhésion, vous pouvez savoir qui nous sommes, vous pouvez avoir accès à des argumentaires, à des extraits d'émissions télévisées, à des extraits d'émissions de radio, à des photographies. Enfin, voilà, c'est un très beau site. Nous avons un excellent webmestre, comme on dit. Et puis, bien sûr, on peut écrire, donc, toujours à ce 50 avenue de Saxe dans le 15e pour obtenir un appel, parce que un appel à tous les royalistes. Pour l'instant, si vous voulez, j'en appelle d'abord à tous les royalistes, parce que je me sentais peut-être autorisé à le faire, dans la mesure où ça fait une bonne dizaine d'années que j'œuvre dans cette famille politique. Dans la mesure où si seulement ceux qui sont royalistes ou qui se sentent proches du royalisme ou qui verraient effectivement un intérêt se rassemblaient dans cette dynamique commune qui nous emmènerait aux Européennes de 2004, je suis convaincu que nous franchirions la fameuse barre fatidique des 5%. Car il y a beaucoup de royalistes en France qui sont dormants, qui sont dans leur naphtaline.
Il y a davantage qui sont en train de se convertir à...
Et il y en a davantage qui deviennent royalistes, c'est vrai, qui sont de plus en plus sensibles à cette nécessité.
Écoutez, vous reviendrez nous parler de la façon dont avance l'Alliance Royale, dont l'adresse, donc c'est 50 avenue de Saxe, Paris 15e, et vous allez avoir le mot de la fin en nous donnant le téléphone.
Le téléphone au 01 30 24 60 47.
Alors je donne la parole à Jacqueline.
Oui, alors une petite rectification. L'association pour l'histoire organise il y a un accent, le mercredi 13 juin prochain et non le 15 comme il a été annoncé par erreur. Une conférence de Philippe Conrad. Donc c'est le mercredi 13 juin. Consacré au bilan de la Première Guerre mondiale, à 20h30, 4 places Saint-Germain-des-Prés. Voilà, 4 places Saint-Germain-des-Prés, le mercredi 13 juin. Et le docteur Dor, pour sa manifestation, c'est le samedi 23 juin à 15h devant l'hôpital Brunet. Et puis...
À Toulon, ça.
Plus qu'une minute, c'est à Toulon, ça.
Là, j'ai deux messages pour Monsieur Yves Maria.
Ah bah, vous voulez lui donner parce qu'on n'aura pas le temps.
Oui.
Voilà.
Dernière
annonce.
Oui, un festival, le 3e de musique classique et peinture qui se tiendra les 23 et 24 juin à Beton, près de Cézanne. Deux journées romantiques avec Yuri Boukov le samedi soir à 20h30. Et puis, le dimanche en matinée, vers 16h, Adrienne Kraus et Françoise Groben, violoniste, et Adrienne Kraus, pianiste. C'est dans les peintures de Juliette Mills. Elle viendra en dire un petit peu plus long, je crois, la semaine prochaine. Voilà, alors vous aurez une soirée romantique et une matinée romantique le dimanche aussi, avec Liszt, Chopin, Brahms, Rachmaninoff, Beethoven.
Merci voilà. Jacqueline, merci Marie-Aline, merci Michel Lagnon, merci Augustin David, à très très bientôt, d'ici là bien sûr, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, daté du 6 juin 2001, rediffusé ce dimanche 26 janvier 2014, dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM des 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.